Donc, on est dans le chapitre 14 du Tanya, Perek Yudalet. Et notre but aujourd'hui, c'est de développer le personnage qui s'appelle le Beinoni. Ça veut dire, on a expliqué depuis le début du Tanya, donc jusqu'au chapitre 14, on a expliqué que dans le monde, il existait, vous avez, non, c'est pas le bon, ouais, c'est celui-là.
Ah, c'est moi qui ai le volume 2.
Ouais, ouais.
On prend le volume 2 ou volume 1 ?
Volume 1, volume 1.
C'est moi qui ai pas le bon.
Qu'on a expliqué, bonsoir, que dans le monde, il y a trois catégories de personnes. Il y a le tzaddik, le racha et le benoni. Le tzaddik, c'est celui qui est, on a expliqué, c'est celui qui a carrément tué son mauvais penchant, il n'a plus de mauvaise pulsion. Le racha, c'est celui qui se laisse aller avec, par ses mauvaises pulsions. Et le benoni, celui qu'on traite depuis un bout de temps, c'est celui qui a des pulsions négatives, comme 99,9% des gens qui ont des pulsions négatives, mais qui quand même arrive à les maîtriser. Et ça, en vérité, notre but à nous, c'est pas forcément de devenir tzaddik. Pourquoi pas? Si un jour on le deviendra, pourquoi pas? Mais on pense pas qu'un jour on arrivera à supprimer nos pulsions négatives. Donc c'est important de le préciser, surtout avant Kippour. Ça sert à rien de se promettre, de se dire, ça y est, après ce Kippour maintenant, j'aurai plus de pulsions négatives. Ça n'existe pas. Les gens ne sont, le monde n'est pas fait comme ça et c'est impossible. Ça veut dire, c'est comme si je décide dorénavant, j'aurai plus de défauts. C'est impossible. Si, à moins que je sois parfait, personne n'est parfait. Donc je continuerai à avoir des défauts. Par contre, ce que je peux réussir à faire, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est me dire, je vais continuer à avoir des défauts, mais je vais apprendre à me travailler. C'est-à-dire, je vais apprendre à vivre avec. Je vais apprendre à savoir les contourner. Comme on a donné plusieurs exemples la semaine dernière, je ramènerai juste un seul exemple. Une personne, par exemple, qui sait qui est nerveux, qui est coléreux, il peut pas décider maintenant, dorénavant, je serai plus nerveux. Il perd son temps. Ça sert à rien. Le tzaddik, voilà, il était nerveux, il est plus nerveux. Bon, ça marche pas. Ça, nous, on n'arrive pas à faire ça. Par contre, se dire, je suis nerveux et je resterai nerveux, mais je vais apprendre à vivre avec. Tu vas le lire? D'accord? Je vais apprendre à vivre avec. Je vais apprendre à canaliser mes pulsions. Ça, on peut le faire. Et ça, on doit le faire. Et ça, c'est le travail du Benoni. Le Benoni, c'est un travail constant qu'il fait pour à chaque fois combattre son Yetzarara. Alors, c'est un point très important qu'on a expliqué ici. Parce que finalement, c'est vraiment entre vous et Dieu. Ça veut dire. C'est possible qu'en vérité, au fond de moi, je suis un grand nerveux. Mais vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que je contrôle mes pulsions. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas nerveux? Non, je suis très nerveux. Personne ne le sait. Peut-être que personne ne le sait. Seulement, j'ai appris à me travailler. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est entre vous et Dieu. Apprendre à se travailler, apprendre à vivre avec un défaut, et surtout apprendre à se maîtriser et à contourner le défaut. Alors, là, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. Finalement, qu'est-ce que se dit le Benoni? Comment le Benoni y fait pour à chaque fois casser son Yetzarara? Son Yetzarara, il vient lui proposer une Avera. Il propose de faire une bêtise. Qu'est-ce qu'il répond à son Yetzarara? À son Yetzarara, il répond, il lui dit, je n'ai pas envie d'être un rachat. Je ne veux pas mal me comporter, puisque je ne veux pas mal me séparer. Je ne veux pas, pardon, me séparer, faire du mal et donc me séparer d'Akadosh Baruch Hu. Alors, là, je voudrais m'arrêter à un point très important. Il y a des gens qui pensent que pour être un bon juif, il faut naître dans une famille religieuse. Et que si on n'est pas né dans une famille religieuse, eh ben on va essayer au maximum de sauver les meubles, d'accord? Et on va essayer de sauver ce qu'on peut. On se dit, bon, au moins nous on est des ratés, mais nos enfants, eh ben ils récupéreront ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Même s'ils ne disent pas, comme je dis, bonsoir. Même s'ils ne disent pas, comme je dis, d'accord? Ils le pensent, ils pensent comme ça. Ils pensent comme ça que, Marcel, t'as besoin d'aide?
Ouais.
D'accord. Si quelqu'un peut l'aider. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui pensent que, moi, maintenant, c'est fini, c'est trop tard, je suis pas né dans une famille, dans un moule qui va avec, mais je me dis que mes enfants, ils continueront et mes enfants, eux, vont réussir. Ce que veut t'expliquer ici le Tanya, c'est que ça n'existe pas de bons juifs et de mauvais juifs. Ça n'existe pas. D'accord? C'est quoi pour vous un bon juif? Allez, là, je fais un tour de table. Jackie, on commence par le Cohen.
Le bon juif, c'est bon, c'est que...
Non, Jackie, j'ai dit, pas vous. Jackie, le Cohen.
Non, il est parti pour bien s'expliquer. Ah.
Jackie, c'est quoi pour vous un bon juif? Ce qui vous passe par la tête? Ne vous inquiétez pas, vous. Ça ne sera pas retenu contre vous.
Qui fait les bonnes actions.
Donc s'il ne fait pas des bonnes actions, c'est pas un bon juif.
C'est celui qui essaie de se rapprocher le plus possible de ce qu'on vient de dire. Du Benoni.
Bravo.
Donc s'il ne le fait pas, c'est pas un bon juif.
Ben, c'est pas que c'est pas un bon juif, c'est un juif quand même, c'est un...
Alors, ça veut dire quoi être juif? C'est quoi être juif, pour vous? Je fais un tour de table, hein, on fait ça souvent. Non, dites-moi ce qui vous passe par la tête, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Bonsoir.
Moi, j'ai envie de dire rester dans la lumière. Mais...
Rester dans la lumière, rester dans le bien, d'accord. C'est quoi pour toi être juif? Ou être un bon juif, un des deux?
Avoir une mère juive.
Et alors, parce que j'ai une mère juive, je suis juif, quel rapport?
Oui, être juif, c'est...
Ah, donc c'est pas... quoi alors? C'est dans les gènes? Ça passe dans les gènes?
Ouais.
C'est biologique?
Aussi.
Être juif, c'est biologique?
Aussi, ouais.
Le juif, il a du sang différent d'un non-juif?
Non, parce qu'il peut se convertir. Ça peut être un point, ça peut
être... C'est quoi être juif? C'est quoi être juif?
C'est une fonction.
Une fonction. Est-ce qu'on peut ne pas l'avoir, cette fonction?
On peut
ne pas l'avoir. Michael? Je sais pas. Bon. Alors écoutez bien ce qu'on va expliquer.
Celui qui est pour...
Contrairement à d'autres religions, d'accord? Je connais pas toutes les religions, mais contrairement à beaucoup d'autres religions, dans lesquelles on va définir la religion d'une personne par rapport à ses actes. Ça veut dire, s'il se comporte comme un chrétien, par exemple, on dit que c'est un bon chrétien. S'il ne se comporte pas comme un chrétien, ben on dit que c'est plus un chrétien. Parce que, les avdils, hein, bien sûr. Parce que pour être croyant, ben, il faut être croyant. Si tu n'es pas croyant, tu n'as rien. Donc si on continue dans cette logique, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, ben, un juif qui se comporte comme un juif, c'est un juif. S'il ne se comporte pas comme un juif, ce n'est pas un juif. Sauf que c'est faux. Sauf que la Torah te dit, un juif reste juif quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de bon juif, de mauvais juif. Il y a un juif et c'est tout. Maintenant, il y a un juif qui se comporte comme un juif doit se comporter, et il y a un juif qui ne se comporte pas comme un juif doit se comporter. Ça veut dire que son comportement n'est pas comme il aurait dû être. Si vous voulez, c'est comme, voilà, par exemple, je suis un homme. Quelle est la différence entre un homme et un animal? Un homme, il marche sur ses deux pieds. Un animal, il marche à quatre pattes. Imaginez un homme qui marche à quatre pattes. Est-ce que ça veut dire que c'est un animal?
Non,
c'est un homme. Seulement, c'est un homme qui marche pas comme un homme.
La différence entre un homme et un animal, il y a deux différences. La première différence, c'est que l'homme, il a un langage animal.
Tu as raison.
Et la deuxième différence, alors, la plus grande différence, c'est que l'homme, il a un libre arbitre que l'animal n'a pas.
Tu as raison. Il y a des différences plus flagrantes. D'accord.
Il y a deux différences.
Il y a des différences plus flagrantes. Mais en tout cas, ce que je vais vous montrer par ici, c'est quoi? C'est que c'est pas parce que je marche comme un animal que je suis un animal. Je peux être un homme et marcher comme un animal. C'est la même chose quand je parle du juif. Et là, c'est important ce qu'on va développer aujourd'hui. Et c'est surtout par rapport à Yom Kippour. On va parler un petit peu aussi aujourd'hui du juif de Kippour. Mais enfin, en vérité, on est tous des juifs de Kippour. Vous allez voir à la fin de ce cours, on est tous un peu des juifs de Kippour. Donc, quand on parle de ce juif-là, est-ce qu'on peut être un bon juif ou un mauvais juif? Réponse du Tania. Le Tania te dit, il n'y a pas de bon juif, de mauvais juif. Il y a être un juif. C'est tout. Tu es un juif. C'est quoi être un juif? Être un juif, c'est quelqu'un qui a dans ses gènes, dans son corps, dans son esprit, un amour inné et caché envers Dieu. Même s'il ne le sent pas encore.
Non, il y a une autre...
Attendez, laissez-moi arriver au bout du raisonnement. C'est très simple. Ça veut dire que le jour où un juif décide de faire teshuvah, il n'a pas besoin de réinventer la roue. Il n'a pas besoin de dire « je vais devenir religieux ». Non, on ne devient pas religieux. Teshuvah en hébreu, c'est pas « je deviens religieux ». C'est « je reviens à celui que j'ai toujours été au fond de moi ». Ça change tout, ça. C'est un détail très 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 important.
Pardon.
Et j'en ai parlé un peu d'ailleurs au Fabringen, Shabbat après-midi.
Voilà.
Ça change tout. Razak Marcel, merci. Ça change tout.
Après.
Parce que si tu viens voir quelqu'un et tu lui dis « il faut que tu deviennes à 50 ans quelque chose que tu n'étais pas », il va dire « 50 ans... »
Ce qu'il a dit, d'accord, Aristote, pour être grand, deviens qui tu es.
Justement. Ça veut dire que ne crois pas que pour être un bon juif, que pour faire teshuvah, ne crois pas que faire teshuvah, ça veut dire devenir quelqu'un de nouveau. Je ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Je redeviens en vérité celui que j'ai toujours été. Pourquoi? Parce que ça, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Écoutez bien. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Dieu a donné ce cadeau depuis Abraham. On avait un ancêtre qui s'appelait Abraham. Jusqu'à Abraham, qu'est-ce qui définissait être un juif? C'était être monothéiste. Celui qui était monothéiste, il était croyant. Celui qui n'était pas monothéiste, il n'était pas croyant. Donc on avait des situations à l'époque.
Mais ils sont tous monothéistes.
Alors justement,
aujourd'hui,
on avait des situations à l'époque dans lesquelles tu avais un parent qui était monothéiste, le père, la mère, l'enfant n'est pas monothéiste. Il croit pas, il croit en plusieurs dieux. Dans ce cas-là, on dit, ben dans ce cas-là, l'enfant n'est plus croyant, c'est fini. Dieu, ça c'était jusqu'à Abraham. D'accord? Jusqu'à Abraham, celui qui était croyant, eh ben tant mieux pour lui, il est monothéiste. S'il n'est pas monothéiste, il n'est pas croyant et c'est tout. Et ça s'arrête là, c'est fini. Ça ne se transmet pas dans les gènes, c'est dans la tête. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Est venu Abraham. Abraham est venu, il est né dans une famille de gens qui n'étaient pas monothéistes, qui ne croyaient pas en Dieu. D'accord ? Enfin, en tout cas, ils croyaient en plusieurs dieux. Voilà. Et il est venu Abraham, et avec son propre esprit, depuis l'âge de 3 ans, il a commencé à réfléchir. Il s'est posé des questions. Il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on me raconte ? C'est du bois qui est une idole ? Pas possible, c'est lui qui est le dieu. Et il se posait des questions. Après, il dit, non, peut-être c'est pas le bois, alors peut-être c'est les nuages. Il dit, mais non, les nuages, le vent, il les pousse. Il dit, oui, mais le vent. Mais peut-être c'est la pluie qui est le plus fort. Il dit, mais non, peut-être c'est le soleil. Mais peut-être c'est la lune, peut-être c'est les astres, peut-être c'est la terre. Et comme ça, pendant des années, il allait, son cerveau allait dans tous les sens. Jusqu'à qu'il arrive à une conclusion, qui doit avoir une force qui est plus forte que tout ça. Il arrive à cette conclusion. D'accord? Et ça, cette conclusion, c'est qui c'est qu'il a eu? C'est Abraham Avinu qui l'a eu. Alors, d'abord, pour le récompenser, Dieu est apparu à lui. Pour lui dire, c'est beau parce que bon, Dieu n'est pas apparu à nous, pour lui dire, tu as bien trouvé et, comme on dit, bingo, tu as bien trouvé. Mais seulement Dieu lui a donné un cadeau extraordinaire. Il lui a dit, le cadeau que je te donne pour le fait que tu allais à contre-courant et que tu n'as pas eu peur d'être contre tout le monde et qu'on l'a jeté à la fournaise pour ça, etc., il n'a pas eu peur. Eh bien, Dieu lui a dit, le mérite que tu auras grâce à ça, c'est que ces conclusions auxquelles tu es arrivé, à savoir la croyance en Dieu, tu vas les passer en héritage à tes enfants. À tes enfants, et tes enfants leur passeront à leurs enfants, ad vitam aeternam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un juif ne pourra jamais arrêter d'être juif. C'est impossible. Si un juif se convertit, imaginez, qu'est-ce que vous pensez d'un juif, par exemple, qui est parti se convertir?
C'est la
Neshama
qui est en lui qui...
Ça vaut zéro. Reste juif. Pourquoi ça vaut rien? Dans l'autre sens, ça vaut. Pourquoi ça vaut pas dans le, sens qui...
Parce qu'il a cette étincelle de la Neshama.
Parce que c'est quoi être juif? Être juif, c'est avoir au fond de soi un amour caché envers Dieu.
Ah ben, les autres aussi, ils ont un amour caché envers Dieu. Les autres religions, les autres monothéistes.
Vous avez raison, vous avez raison. Moi, je parle de l'amour caché qu'un juif doit avoir.
Oui, mais là, ça veut dire que je suis pas différent par rapport aux autres.
Tu as raison, j'arriverai plus tard dans l'autre sens. Pareil, c'est la question qu'il pose. Le converti, on parlera plus tard. Le converti, en vérité, ce qu'on explique, c'est qu'en vérité, dans ses gènes, il a toujours eu quelque chose un peu de juif.
Dans ses gènes, tu veux dire dans ses neshama?
Dans ses neshama, dans sa manière de vivre, etc., dans sa manière de réfléchir. Mais ça, c'est un autre thème. On parle pas des convertis aujourd'hui, on parle des juifs. D'accord? Ce que je vais expliquer par là, c'est que là, maintenant, on va revenir au Benoni. Et on veut expliquer au Benoni pourquoi, en vérité, c'est pas si compliqué que ça de casser son Yetzer Hara. Il va dire, mais comment? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il va arriver un Kippour maintenant, je vais changer? C'est impossible de changer. Qu'est-ce que tu veux que je change? T'as vu comment je me comporte? Tu crois qu'en un jour je vais changer un comportement de toute une année? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on répond au Benoni? On répond au Benoni, on lui dit, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu n'as pas besoin de changer. En vérité, toi tu crois que tu changes, mais tu vas faire que, en vérité, revenir à ta vraie nature. Et donc c'est beaucoup plus facile. Vous savez, des fois, que des choses comme ça, on croit que quand on fait teshuva, on a l'impression que c'est un monde et que c'est très compliqué. Et finalement, après, quand on a commencé, on se dit, mais finalement, c'est pas si difficile que je croyais. Comment ça se fait? Pourtant, j'ai changé. Parce que je n'ai fait que revenir à la personne que j'ai toujours été. Et ça, c'est l'argument qu'a le Benoni. L'argument qu'a le Benoni, quand il va essayer de casser son Yetzer Hara et de casser ses pulsions, il va se dire, je l'ai en moi. Je peux le faire. Quand quelqu'un sait qu'il peut le faire, c'est beaucoup plus facile. Quand tu te lances comme ça à l'aveuglette et tu sais pas si ça va marcher ou ça va pas marcher, c'est dur. Tu dis, attends, qui sait que ça va marcher? Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Qu'est-ce que je sais que ça va marcher? Mais quand tu te lances et tu sais qu'en vérité tu as ça en toi, tu peux le faire, tu as ça dans tes gènes, tu as ça en toi, c'est beaucoup plus facile. C'est ce que dit le Benoni. Seulement, vous avez remarqué, et ça on va le voir dans les mots, que j'ai appelé ça un amour caché. Pourquoi j'ai appelé ça un amour caché? Parce que si cet amour envers Dieu, qu'on a hérité d'Abraham Avinu, d'Abraham notre ancêtre, si cet amour était dévoilé, ça aurait été trop facile. Jamais j'aurais voulu faire d'Averot. Évidemment, dès que je vais faire une Avera, j'ai cet amour dévoilé qui est devant Dieu, et qui dit, ne fais pas l'Avera. J'ai appelé ça un amour caché. Pourquoi on appelle ça un amour caché? Parce que c'est un amour que des fois, moi-même, je ne le sais pas que je l'ai. D'accord? Il est caché pas que pour les autres, il est caché même pour moi. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, s'il est caché même de moi, alors à quoi il sert?
Alors s'il est caché de moi, comment on se fait exactement que bien qu'il soit caché de moi, je me comporte alors, comme quelqu'un?
Justement. Il est caché, et que des fois même moi je ne le sais pas. Mais à certains moments de la vie, il ressort. Par exemple, à quel moment de la vie il ressort? Il va ressortir par exemple, quand une personne, il a perdu un proche. Ah, tout d'un coup, il a envie de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sent qu'il a toujours été dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, t'as l'amour caché qui est ressorti. Il va ressortir aussi le jour de Kippour. Le jour de Kippour, c'est cet amour caché qui va ressortir. Il va ressortir aussi, comme on va voir tout de suite, le jour où t'as un juif qui est pas pratiquant du tout, et qu'on lui dit, bon, bah, dans ce cas-là, puisque t'es pas pratiquant, eh ben, va te baptiser, va te convertir. Là, il va dire, non, ça non. Pourquoi ça non? Là, il a un blocage. Pourquoi il a un blocage tout d'un coup? D'accord? Il a un blocage. Il dit, mais pourquoi t'as un blocage? T'as fait les 400 coups. D'accord? Ça n'a rien à faire.
Parce qu'il veut pas aussi avoir les contraintes dans l'autre.
Non, 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 pas du tout. Alors, on va le voir, on lui dit, alors, attends. On va le voir, on va lui dire, alors t'es plus juif? Il dit, non, je suis juif. Je vous ai raconté l'histoire la dernière fois. Il y a une dame, une fois, qui était venue ici pour un kidouche.
Ah oui.
Pour un kidouche d'une amie à elle, qui était décédée. Bon, toute une histoire des rescapés de la Shoah. Et la dame a dit, d'accord, la dame a dit la chose suivante. Elle a dit, moi je suis passé par la Shoah. Elle était là, la dame, hein. Elle a dit, moi je suis passé par la Shoah. D'accord? Je suis pas croyante, je crois plus en rien, je crois plus en Dieu. Mais je tiens à être enterrée par un rabbin. Ouais. Parce que l'histoire, c'est que sa copine, elle n'a pas été enterrée par un rabbin. Mais toute une histoire. Bon, elle était déjà âgée, je voulais pas la, d'accord? Je voulais pas dire, mais pourquoi vouloir être enterrée par un rabbin? J'ai dit, bon, au moins elle veut ça, on va lui laisser ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi elle veut être enterrée par un, elle veut être enterrée comme une juive. C'est-à-dire qu'il y a des choses que même si concrètement, dans la pratique, dans la conduite de la vie de tous les jours, eh ben, malheureusement, c'est pas comme ça devrait être. Mais il y a des choses dans lesquelles je sens que si je vais dépasser ça, je vais toucher un point de non-retour. Et donc, c'est pour ça que je dis, stop, je m'arrête là. Alors, le point de non-retour, il va être très variable. Par exemple, dans certaines familles, ça va être se marier avec une non-juive. Ça, tu fais ce que tu veux, mais tu te maries pas avec une non-juive. Dans d'autres familles, tu te maries avec qui tu veux, mais dans ta tête, tu restes juif. Ou bien, je veux que tes enfants aient la circoncision. Après, ce point-là est très variable. D'autres personnes, c'est le fait que, au fond de moi, je dois savoir que je suis juif. Ou bien ne pas aller chercher d'autres religions. Ça veut dire que c'est des points qui sont au fond de moi. Pourquoi il y a un blocage? Ce blocage vient de ce fameux amour à Ava Mesuteret, ce fameux amour caché qu'on a au fond de nous. Chacun de nous a un amour caché envers Dieu, et personne pourra me l'enlever. Personne. D'accord? Seulement, le problème, c'est quoi? Et ça, c'est la force du Yetzara. Et là, on va le faire dans les mots. C'est que le Yetzara, il m'endort. Comment il m'endort, le Tzara? Le Tzara, il me dit, rentrer dans l'église, c'est grave. Manger du cochon, c'est pas grave. Pourtant, les deux sont aussi graves l'un que l'autre. Ou bien il va me dire, manger du cochon, c'est grave. Transgresser Shabbat, c'est pas grave.
Pourquoi c'est aussi grave?
D'accord? Parce que les deux, c'est une avéra.
Non. Manger du cochon, c'est là. Rentrer dans l'église.
Non, mais ça change pas. Quand je dis rentrer dans l'église, ça veut dire rentrer dans l'église pour me convertir. D'accord? Dieu préserve. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzer Hara, en vérité, il nous endort, bonsoir. Le Yetzer Hara, il nous endort. Qu'est-ce qu'il fait, le Yetzer Hara? Il te fait croire qu'il y a des avérotes qui passent, il y a des avérotes qui passent pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un point très important. C'est qu'un juif ne veut pas qu'on lui dise qu'il n'est plus juif. Donc dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, j'ai fait une avéra, mais je reste juif. Par contre, dès qu'on va lui dire, rentre dans l'église, Dieu préserve, il va te convertir, il va dire non. Si je veux faire ça, je me sentirai plus juif. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'en vérité, c'est cette fameuse nuance qui fait qu'il y a des avérotes qu'on n'est pas dérangé de faire, il y a des avérotes que ça ne nous dérange pas de faire.
Oui, enfin, d'accord? Il y a des paliers, quoi. Voilà.
Donc, c'est quoi ce palier? Ce palier est dans ma tête. Dans ma tête, cet amour caché que j'ai en moi fait que je ne veux pas me détacher de Dieu. Je veux rester juif. Seulement, ce palier est variable. Et c'est ça le Yitzhara qui m'endort. Il va dire, bon, le Yitzhara va dire, fais les 400 coups, mais ne rentre pas dans l'église. Marie-toi avec une juive. D'accord? Ça veut dire que le Yitzhara, il te fait croire que tant que tu fais ces autres avérotes, tu restes juif. Et il te rassure comme ça. Il te dit, ça va, qu'est-ce qu'il y a? T'es encore juif. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, t'es encore juif. Par contre, cette avéra, elle est trop grave. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je connais beaucoup de gens comme ça, des gens qui font même pas kippour, mais que dans leur tête, il faut se marier avec une juive. Sinon, c'est très grave. D'autres personnes disent non, moi dans ma tête, ce qui compte, c'est que je suis juif dans ma tête.
Donc ça veut dire que chacun a son shulchan aruch.
Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, toutes les avérotes sont aussi graves l'une que l'autre. Se marier avec une non-juive, d'accord, rentrer dans une église, se convertir, c'est aussi grave que de ne pas faire Shabbat.
Évidemment.
C'est toutes des avérotes de Dieu. Seulement, dans notre tête, on s'est créé une échelle.
Ben c'est ça.
Et chacun s'est créé son échelle. Et ça, c'est le Yetzara. Maintenant, la force du Benoni, c'est qu'il va essayer maintenant de faire la démarche contraire. C'est quoi la démarche contraire? De se dire, finalement, je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir. Pourquoi, de quel droit je me suis dit que ça c'est plus grave, ça c'est moins grave? Tout est grave. Ou tout est pas grave, ou tout est grave. Tout est grave. Mais on s'est fait endormir par le Yetzer Hara. Alors, on fait une pause question, après on va faire dans les mots. Oui.
Effectivement, c'est créer une échelle, mais il y a aussi une échelle fixée par la Torah. Il y a des fautes qui sont pas du tout de la même gravité.
C'est vrai.
Les unes que les autres. Je sais pas, tuer quelqu'un, c'est pas la même gravité que manger du cochon.
Alors, d'accord.
Donc il y a aussi une échelle au niveau de la sanction fixée aussi par la Torah. Donc ça, Alors, est-ce que c'est Yetzer Hara, du coup, qui nous endort avec ça, ou est-ce que nous, on a une échelle aussi par rapport à ça, par rapport aux Eretz, par rapport à plein de
Très bien. Alors, je
peux... Mais du coup, pour moi, ça me semble évident qu'il y a une échelle.
Qu'il y a une échelle.
Pour moi, peut-être perso, peut-être que j'ai tort, mais pour moi, quelqu'un qui a un très très mauvais comportement, etc., au niveau des Eretz, mais qui voilà, va faire Shabbat, etc., et l'inverse... Pour moi, il y a une échelle.
Alors, qu'est-ce qui fait
quelqu'un qui va voler, par exemple, tout le temps, je dis n'importe
D'accord,
quoi.
D'accord, ok, voleur.
Qui va des banques la semaine et qui va dire, mais moi, jamais, Rasbé Shalom, je vais transgresser Shabbat.
Pourquoi il fait ça, d'après toi?
Pour moi, il y a une échelle de valeur.
Pourquoi? Pourquoi dans sa tête, voler, c'est moins grave que faire le Shabbat?
Il a mis dans son...
Pourquoi? D'où c'est venu, ça?
Parce que c'est une échelle qui s'est auto...
Alors, là, il nous donne la réponse, ici. Il nous donne une réponse très simple. Et vous pouvez voir que cette réponse, elle tient la route de toute la vie. C'est qu'en vérité, un juif ne veut pas se sentir qu'il n'est plus juif. Donc dans sa tête, ce juif que tu as dit, pour lui, par rapport à son éducation peut-être, un juif qui fait pas Shabbat, c'est pas un juif. Comme ça, il croit. Donc il dit, ne pas faire Shabbat, ça je touche pas. Mais bon, voler, ça va, je reste juif. Donc c'est pour ça qu'il vole. Et après, on s'arrangera avec Dieu. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Yetzer Hara, il joue avec ça. Il joue avec ce facteur de me dire, t'inquiète pas, tu restes juif. Alors qu'Ada Averol, que je sais, non, ça c'est trop grave, je pourrais pas le faire. C'est pour ça que même les juifs très très loin, Kippour c'est très important. Pourquoi Kippour c'est très important? Parce qu'il se dit, bon, Kippour c'est grave, si même Kippour je fais pas, ça voudrait dire que vraiment je suis pas un juif. Donc ça je dirais pas, non, je suis un juif. Mais toute l'année je fais rien.
Ils ont aussi l'impression de se faire pardonner à Kippour.
Non, pas spécialement. Je promets, c'est pas l'approche, non. C'est pas vraiment l'approche. L'approche c'est que pour eux c'est la relation qu'ils ont avec Dieu.
C'est la tâche D'accord qui les relie à Dieu.
Exactement, c'est la tâche qui les relie avec Dieu. C'est le jour qui est dédié pour Dieu.
C'est comme je connaissais des gens qui, voilà, qui sont pas très religieux du tout, pas religieux du tout. Et après ça, ils mangent les matzot, je vous ai dit, avec du petit salé.
Oui, après ils mangent la matzah.
Le petit salé.
Après ils mangent la matzah.
Le problème, c'est que la matzah...
Attendez, je vous pose des questions. Après ils mangent la matzah. Mais dans ce cas-là, après ils mangent la matzah. Parce que dans sa tête, sa mère a lui inculqué depuis son enfance qu'un juif, il doit manger de la matzah à Pessah. Donc dans sa tête, il doit manger de la matzah à Pessah. Maintenant, ce qu'il fait à côté, bon... Mais il doit manger de la matzah à Pessah. Parce que dans sa tête, s'il arrête de manger de la matzah à Pessah, c'est plus un juif. C'est ça. Eh ben c'est ça. En vérité, alors en vérité, là c'est un peu une caricature ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on a pris un juif, d'accord ? On a pris un juif, voilà, on a dit voilà le juif qui fait rien du tout et qui pour tout d'un coup il se réveille. Mais en vérité, on est tous un peu comme ça. Pour. Oui. Alors c'est là que je réponds à la question. J'ai qu'en vérité, on est tous quelque part des juifs de Kippour. Ça veut dire qu'on s'est tous créé notre petite échelle, chacun par rapport à son niveau, et on s'est tous dit bon, ça je fais, ça je fais pas. Ça, c'est pas grave, ça, c'est grave. Et par rapport à ça, le Yetzer Hara, il joue avec ça. Il va dire, bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est grave. Il joue avec ça, le Yetzer Hara. Et le rôle du Benoni, maintenant, c'est d'essayer, justement, de casser ça. Et de se dire, en vérité, tout est important. Il n'y a pas plus important, moins important. Et c'est pour ça qu'on a ce travail à Kippour. On va dire, pourquoi ça, c'est plus important, c'est moins important? Tout est important pour un Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le Benoni se travaille. Il dit, de la même manière que ça te dérange d'entrer dans une église pour te convertir, parce que tu dis, je peux pas faire contre quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, je peux pas me détacher, je peux pas ne plus être juif. Tu crois que quand tu fais une avéra, tu te détaches pas de Dieu? C'est la même chose. Parce qu'une faute me sépare de Dieu. Seulement, le Yetzer Hara m'a mis un esprit de folie dans la tête qui fait que je crois que c'est pas grave. C'est ce qu'on va faire dans les mots maintenant. Alors, dans les mots. Va filou kal shebekalim. Voilà, j'ai fait beaucoup à l'oral, hein, mais c'est pour préparer la suite. Page 195. Va filou kal shebekalim. Ah, tu peux prendre celui-là. Là, j'ai pas besoin. Va filou kal shebekalim, yachol limsor nafsho al kidushat Hashem. L'histoire nous a montré que même des gens qui étaient légers de chez légers, c'est-à-dire des gens qui étaient très très loin, comprenez, des gens qui étaient très très loin. Ces gens-là, le jour où on leur a dit, bah, puisque vous êtes tellement loin, alors venez, vous allez vous convertir. Il y a eu des cas dans l'histoire dans lesquels on leur a dit, soit vous vous convertissez, soit on va vous mettre à mort. Plein de cas comme ça dans l'histoire. Et on a vu que ces gens-là, ça n'a pas raté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, on est prêts à se laisser tuer. À tel point que eux-mêmes, ils s'attendaient pas qu'ils aient une réaction comme ça. Parce que normalement, l'instinct de survie, c'est normalement ce qu'il y a de plus fort chez un homme. On est d'accord. Normalement, l'instinct de survie, c'est ce qu'il y a de plus fort chez un homme. Ça dépasse tout. D'accord? 205, hein. Oui, dans d'autres livres, hein. Non, c'est que le tien. C'est volume 2 ou volume 1, le tien? Volume 2 ou volume 1? Volume 1, alors tu as là, c'est là. On est à volume 1, c'est la page, en bas de la page 95. Bafilou Kachébekani. Donc, 195. 195. On a vu dans l'histoire, j'étais en train de dire, des gens qui ont fait Messirut Nefesh. D'accord? Ça veut dire qu'on fait Messirut Nefesh. Normalement, l'instinct de survie est ce qu'il y a de plus fort chez un homme. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus fort que ça. C'est plus fort que les sentiments, c'est plus fort que la réflexion, c'est plus fort que tout. Là, on a trouvé que l'instinct de judéité est plus fort encore que l'instinct de survie. Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens, d'accord, dans l'histoire, et c'est des choses qui n'ont pas été racontées par des juifs, c'est des choses qui ont été racontées par des goïms. Et malheureusement, dans le Ham Israël, on est passé malheureusement beaucoup, dans le monde séfarade, dans le monde ashkenaz, dans beaucoup d'endroits, dans des situations dans lesquelles on a dit aux gens, soit vous vous convertissez, soit on va vous tuer. On les a pris. On les a mis dans une fournaise, d'accord? Et pendant un laps de temps, je sais pas, de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, il peut regretter encore, parce qu'il est en train de brûler, Dieu préserve. Et on a vu des gens, d'accord, qui sont restés, je sais pas s'ils avaient le sourire, mais en tout cas, ils sont restés, pourtant c'était des gens que dans la pratique de tous les jours, ils faisaient les 400 coups. C'est-à-dire qu'ils avaient pas peur d'aller avec n'importe qui, de faire des bêtises avec des femmes, de faire n'importe quoi. Ils avaient pas peur. Et quand on leur a dit, dans ce cas-là, convertis-toi, il s'est pas converti. Pourquoi il s'est pas converti? Pourquoi cette personne-là, il s'est pas converti? Parce que nous, on part de la base que n'importe quel juif, il a en lui, dans ses gènes, quelque chose qui a été hérité depuis Avraham Avinu, qui est qu'un juif est prêt à donner sa vie pour Dieu.
D'accord, même d'accord, s'il s'était converti, ses gènes, ils vont pas changer.
Oui.
Ce qu'il y a dedans, il va pas partir.
Bien sûr.
Il restera toujours avec
les marins ne sont pas convertis. Voilà. Exactement. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. C'est-à-dire dans leur tête, ils ne sont pas convertis. Mais là, je te parle plus que ça. Je te parle des gens qui, dans la vie de tous les jours, étaient des gens qui n'étaient pas bien. C'était des rachats. Des grands réchaïms. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? Dès qu'il y a eu un moment de vérité comme ça, tout d'un coup, ils ont tout oublié, ils ont tout mis de côté. L'identité juive qui s'est réveillée. Il y a par exemple, le Rav Steinfeld, il s'arrête beaucoup sur ça dans son commentaire sur le Tania. Il ramène plein d'exemples, c'est un historien qui connaît, il ramène plein d'exemples d'historiens goy qui racontent comment ils ont vu ça de leur propre yeux, que eux-mêmes étaient choqués. Et il raconte là-bas une histoire intéressante aussi, une histoire intéressante. Il dit, il y avait une fois, c'était à l'époque de la Shoah, il y avait une maison dans laquelle étaient hébergés plusieurs juifs, d'accord? Donc il y avait une maison à plusieurs étages dans laquelle étaient hébergés plusieurs juifs. Et au rez-de-chaussée, il y avait des jeunes filles qui habitaient. Malheureusement, ces jeunes filles étaient juives, mais elles se comportaient pas très bien. Elles faisaient beaucoup de bêtises avec des garçons. Et bon, vous imaginez que chaque fois que les gens rentraient, surtout les religieux qui rentraient, dès qu'ils voyaient ces jeunes filles, et bon, ils comprenaient la fête qui se passait là-bas. Bon, à chaque fois, c'était des mots de dédain, et qu'est-ce que vous faites là, etc. Vraiment, des mots très très durs, parce qu'ils supportaient pas que leurs enfants voient des choses comme ça, que ça soit vraiment une catastrophe comme ça, en bas de chez eux, vraiment en bas de chez eux. Ils avaient pas le choix, d'un autre côté, dans une sorte de ghetto. Et comme ça durait pendant des semaines. Et à chaque fois, ces filles juives-là montraient comme s'ils n'en avaient rien à faire, continuaient à faire les bêtises, etc. Et arrivait un moment, dans lequel ces filles juives qui allaient avec des Allemands, d'accord? Et arrivait un moment dans lequel on a appris qu'il allait avoir une rafle. Alors, les juifs, ils sont cachés où ils pouvaient. Vous savez comment ils se cachaient? Ils se cachaient entre les étages, dans les greniers, etc. Enfin bon, nous, on en soulevait des dalles, etc. Et ils sont arrivés, d'accord? Quand les Allemands, ils marchaient même, sont arrivés pour faire la rafle, ils sont arrivés dans cet immeuble-là. Ils sont rentrés, ils ont demandé à ces juives-là, d'accord, mais bon, ils voulaient pas les prendre parce qu'ils voulaient continuer à faire des bêtises avec elles. Ils leur ont dit, est-ce qu'il y a des juifs dans cet immeuble? Et avec une arme, c'est-à-dire, dites-nous la vérité, on va vous tuer. Les juives ont répondu, non, il n'y a pas de juifs dans cet immeuble. Ils sont tous partis. Comment ils ont pu avoir la force d'esprit, la force de cœur? Alors n'oubliez pas que c'était des gens qui se faisaient insulter tous les jours. Ça veut dire que l'instinct humain aurait dû dire, attends, ah, vas-y, ils arrêtent pas de t'insulter tous les jours, ils arrêtent pas de te cracher dessus. Pourquoi tu, juste tu dis la vérité, tu dis qu'ils sont là-bas, qu'est-ce qu'on a à faire? Et Béhémet, ils sont en guerre constante. Il y a eu un moment de vérité. Dès qu'arrivait sa son de vérité, c'est l'aspect du juif qui a pris le dessus et il a dit, je suis juif et je veux pas dénoncer l'autre juif. Ça, c'est un exemple. Je trouvais cet exemple un bel exemple. Il y a encore plein d'exemples comme ça, de gens qui, dans la vie de tous les jours, ils se comportaient pas comme des juifs et dès qu'on est arrivé à un instant de vérité, tchik, c'est revenu à la surface et eux-mêmes, ils sont pas capables d'expliquer pourquoi ils l'ont fait.
C'est pas rationnel.
D'accord? C'est pas rationnel. C'est quelque chose qui dépasse l'instinct de survie. D'accord? Donc là, on s'adresse maintenant au Benoni. Le Benoni, il se dit, c'est pas normal que je suis juif et que cet instinct de judéité arrive qu'à des moments extrêmes. Pourquoi je suis pas capable de développer cet instinct de judéité dans la vie de tous les jours? Et c'est ça ce que le Benoni essaye de faire. Il se dit, pourquoi attendre Kippour pour devenir un bon juif? Pourquoi je ne veux pas développer cet instinct de judéité toute l'année? Ça, c'est le travail que le Benoni fait toute l'année. Il essaye de garder cette émouna, cette croyance qu'il avait à Kippour, il essaye de la garder tout au long de l'année. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont bénonis. Mais on commence à comprendre quelle est sa démarche. Quelle est la démarche, comment il réfléchit. Il se dit, je l'ai en moi, je me fais avoir par mon Yitzhara qui me fait croire que c'est pas important, en vérité c'est important, alors je vais me faire des efforts pour développer quelque chose que j'ai déjà en moi. Dans les mots. Velo nofel anochi mimenu bevadai. Le Benoni se dit, si on a vu dans l'histoire que des gens légers de chez légers ont réussi à donner leur vie pour Dieu, est-ce que moi je suis moins important que lui? Je suis pas un rachat, moi. Alors, puisque je suis pas un rachat, pourquoi tout d'un coup le Yetzahara, il me demande, il me propose de faire une avéra, je dis non, j'arrive pas, c'est trop dur. Pourquoi c'est trop dur? T'as bien vu que lui, il a réussi à le faire. Il a réussi à surmonter, l'avéra pour ne pas fauter pour un Kadosh Baruch Hu. Seulement quoi? C'est-à-dire, non, mais c'est pas la même chose. Là-bas, on parlait de donner sa vie pour Dieu, c'était pour ne pas se convertir. Là, c'est pas se convertir, c'est une petite bêtise, c'est pas la fin du monde. Il dit non. Et là seulement, chez Nirnas Boruarchtout, un point très 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 important ce qu'il dit ici. La Gemara a dit comme ça. Quand on parle de la Gemara, elle nous prend un pasouk dans la paracha de Nassau qui nous parle de la femme Sota. La femme Sota, c'est une femme que son mari soupçonne d'adultère. Maintenant, le soupçon n'est pas venu de nulle part. D'accord? C'est que le mari, il a prévenu sa femme, il a dit, arrête de t'isoler avec monsieur Intel. Bon, voilà, je te soupçonne pas, mais bon, la porte était fermée, voilà. Donc, arrête de t'isoler avec monsieur Intel. D'accord?
Elle avait peur que ça fasse sauter.
Ah, ben oui. Alors, donc, le mari prévient sa femme. Sa femme continue. On dit pas qu'il s'est passé quelque chose. La femme continue, elle se cache avec ce monsieur. Ça veut dire que, voilà, il est venu, la porte, comme par hasard, la porte était fermée. Alors, le mari, dans ce cas-là, il va devoir, il va amener sa femme au Beth Amikdash, on va lui faire boire une certaine potion, etc. Et tout un rituel qui est raconté dans la paracha. Seulement, ce qu'on voit, c'est que, quand la paracha parle de la sota, normalement, sota en hébreu, ish ki tiste ishto, sota, ça s'écrit avec sa mère, tête, he.
Il n'y a pas le yod.
Sota, ça veut dire dévier, une déviation. Comme en hébreu moderne, quand vous allez en hébreu moderne, quand vous allez en Israël et qu'il y a une déviation dans l'autoroute, on appelle ça une stia. Stia, c'est une déviation. Donc la sota, c'est une femme qui a dévié. Parce que le fait même qu'elle s'est cachée, alors qu'on l'a prévenue, c'est déjà une déviation. Après, s'il y a eu acte ou il n'y a pas eu acte, c'est une autre question. Mais le fait même qu'il y a eu une déviation, le fait même qu'elle s'est cachée, c'est déjà une déviation. Seulement. La Gemara nous fait remarquer qu'au début de la paracha sota, au lieu de marquer sota en écrivant sa mère, tête, he, c'est écrit sin, tête, he. Vous allez me dire, c'est la même chose. Sin, sa mère, d'accord? C'est le se, c'est la même chose. Ça change tout. Pourquoi? Parce que si j'ai sin, tête et he, je peux composer avec ça aussi le mot shoté. Shoté en hébreu qui veut dire fou. Qui veut dire, le même mot veut dire dévier et il veut dire aussi folie. Pour te dire, si je dévie, c'est parce que j'ai eu un esprit de folie. Parce que normalement, un juif ne dévie pas. S'il a dévié, c'est qu'il a eu un esprit de folie. C'est quoi un esprit de folie? Alors maintenant, il faut définir c'est quoi la folie. C'est quoi la folie? La folie, c'est croire quelque chose, d'accord? C'est quoi une folie pour vous? Une folie, c'est croire quelque chose qui est faux. Et qu'au moment où je le fais, je réfléchis pas. Et après coup, je regrette. Quand, par exemple, je vais dans un magasin et je dis j'ai fait une folie. Vous savez pourquoi j'ai fait une folie? C'est-à-dire, j'ai acheté quelque chose qui était pas normal, qui était insensé. Par rapport à mes revenus, par rapport à ce que j'ai besoin, par rapport à ce que j'ai besoin, je pense que c'était insensé. J'appelle ça une folie. Eh ben, c'est la même chose. Le Yetzer Hara, il te fait faire des folies. C'est des déviations qui sont des folies. C'est quoi ces folies-là? Il te dit, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu peux continuer à fauter, tu resteras encore juif. Donc il me met une folie dans la tête, il me dit, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, t'inquiète pas, tu restes juif. Donc il met une bêtise dans la tête, et moi je plonge, et je continue comme ça. Donc c'est ça ce qu'il te dit ici, qu'en vérité le Benoni se dit, qu'en vérité toutes les avérotes sont aussi graves que se convertir au christianisme. C'est aussi grave, peut-être pas au sens de la punition, mais au sens de la gravité c'est grave. Dieu a dit de ne pas faire, tu fais. Imagine-toi que Dieu est devant toi, il te dit, ne fais pas. Et moi je dis, je veux faire, et je le fais. Quand il y a une avéra, c'est un conflit entre la volonté de Dieu et ma volonté. Dieu ne veut pas que je le fasse, moi je veux le faire et je l'ai fait. Donc, d'accord, ma volonté a dépassé la volonté de Dieu. Seulement, pourquoi ça me dérange pas? C'est vrai, quand je le présente comme ça, je dis bon, ça va, doucement, je fais une petite bêtise. Pourquoi ça me dérange pas? Parce que je me dis, je me rassure. Je me dis, t'inquiète pas, t'as fait une avéra, mais tu restes juif. Tu restes encore attaché à Dieu, ta neshama ne s'est pas séparée de Dieu. Donc je me rassure. Mais ça c'est une folie. Ça c'est un esprit de folie du Tzara. Et là on comprend un peu mieux ce que la Gemara dit, qu'un homme ne faute seulement s'il a eu un esprit de folie. C'est un esprit de folie. C'est quoi une folie? Une folie c'est quelque chose que tu fais, qu'au moment où tu le fais, t'es happé par quelque chose, et une fois que tu l'as fait, tu regrettes. Tu dis, c'était une folie. Non, j'aurais pas dû le faire. C'est ça une avéra. Une avéra, tu l'as fait, et au moment où tu l'as fait, t'es happé, d'accord? Et une fois que t'as terminé l'avéra, tu regrettes tout de suite. Pourquoi tu regrettes? T'as déjà fauté maintenant, kiffe au moins. Pourquoi tu regrettes? Ouais, mais il a fauté, c'est fini, il regrette. Pourquoi tu regrettes? Non, c'est trop tard maintenant.
Et pourquoi les forces ne sont pas égales les unes aux autres? Pourquoi la force, la carte de Jvaroukou, n'est pas aussi forte que celle du Yetzera? Pourquoi on est obligé de se battre et que c'est toujours. Enfin, le Yetzera, il a souvent raison.
Alors, c'est une bonne question. En fait, la réponse est très simple. La réponse à cette question est très simple. C'est que, en fait, comme on a expliqué, tout est relatif. Ça veut dire. Dans l'absolu, toutes les avérotes sont graves. Et quand je fais une avéra, je me sépare de Dieu. C'est clair. Seulement, Dieu a donné un pouvoir au Yitzhara de m'endormir. Il me fait croire, certaines choses. Ce pouvoir du Yitzhara va varier chez chacun de nous. C'est-à-dire, chacun de nous, son Yitzhara va lui parler différemment. C'est-à-dire, pour un, il va lui dire, le Shabbat, c'est pas grave, mais l'adultère, c'est grave. Pour l'autre, il va dire, non, l'adultère, c'est très grave, le Shabbat, c'est pas grave. Qu'est-ce qui explique que pour un, ça, c'est grave et ça, c'est pas grave? J'en sais rien. Peut-être c'est l'éducation, comme plusieurs ont dit. Peut-être c'est, je sais pas, parce que dans le monde social dans lequel il se trouve, ça c'est grave et ça c'est pas grave, j'en sais rien. Mais en tout cas, le Yitzhara va utiliser ces facteurs-là pour lui faire croire, ça c'est grave, ça c'est pas grave. Alors qu'en vérité, tout est grave. Tout est aussi grave, parce que c'est contre la volonté de Kadosh Baroukh Hou. Et donc, notre rôle maintenant, quand on va arriver avant Yom Kippour, et de manière générale toute l'année, c'est d'essayer de ne pas tomber dans le panneau du Yitzhara et d'essayer de se dire, c'est grave. Ne crois pas que c'est pas grave, il n'y a pas d'avérotes qui sont pas graves. Tout est grave. Quand tu fais une avéra, tu te sépares de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, qu'est-ce qu'a fait le Yitzhara? Le Yitzhara, il me fait un esprit de folie dans lequel il me dit, c'est pas grave. T'inquiète pas, tu restes juif. Tu restes un bon juif. Des fois, je vais voir des gens, je leur propose de mettre les tefillines, je dis, viens, est-ce que tu veux mettre les tefillines? Ah, moi, je suis juif dans le cœur. C'est quoi cette réponse-là? Est-ce que vous avez une fois? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette réponse? Non, mais c'est une réponse que j'entends souvent. C'est quoi cette réponse-là? C'est-à-dire que dans sa tête, il est juif. Donc il dit, je reste juif. C'est pas parce que j'ai pas mis les tefillines que je suis pas juif. Donc je veux pas les mettre. C'est ça sa réponse. Tout est dans cette réponse. Et cette réponse, on se l'a dit. Ça veut dire, je me dis, bon, ça va, je suis juif, ça va, c'est bon, je suis religieux, ça va, je suis bien. Donc je me rassure, je me dis, c'est pas grave. C'est pas, je me dis, c'est pas grave. Je me dis, bon, c'est pas si grave que ça. Alors que c'est grave, en vérité. Ça fait partie du Ruach Shtut, de l'esprit de folie du Yitzhara.
Le
fou
ne peut pas être
tenu
pour responsable.
C'est vrai. Mais le problème, c'est que le Yitzhara, il prend du temps à travailler. C'est-à-dire, c'est pas d'un coup, il te met un esprit de folie. C'est que, progressivement, il te pousse à la vera, d'accord? Ça veut dire qu'il t'amène la pulsion, et il t'attire, etc. Et, au début, tu peux te retenir. Mais après, une fois que t'es devant, c'est trop tard. Le bonhomme, il a fait les préliminaires, il a tout fait. Dès qu'il arrive avant là, il dit, non, je vais me retenir. C'est impossible de te retenir à ce moment-là. Après, il dit, oui, mais c'était plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Parce que t'avais plusieurs minutes, t'avais plusieurs heures pour te retenir, et tu l'as pas fait. Donc c'est trop tard maintenant.
Donc en fait, on ne te reprochera pas la faute elle-même, on te reprochera le fait que tu
t'es pas exactement, derrière. Exactement. C'est pour ça que la sota, c'est choter. C'est-à-dire, dès l'instant où tu as commencé à dévier, c'est là l'erreur. Après, le fait que je suis arrivé là, hein, une fois que j'arrive là, je dis oui, mais je suis tombé au précipice. Donc, non, mais attends, mais là, c'était déjà trop tard. Là. L'erreur était au début, quand tu as commencé, quand tu aurais pu encore récupérer, quand tu avais pu récupérer. Et ça, on remarque en vérité, hein, la première fois qu'on fait une avéra, on est dérangé. Après, on est moins dérangé. D'accord? Je vais prendre un exemple. On est avant Kippour maintenant, mais le Yitzhara, il investit beaucoup pour la première Avera après Kippour. Première Avera après Kippour. C'est la plus dure pour le Yitzhara. Parce qu'il sait qu'une fois que j'en aurais fait une, j'en referai une deuxième. C'est sûr. Mais il investit beaucoup. T'es après Kippour, t'es pur, là. C'est-à-dire, t'essayes de gérer, t'essayes de pas t'énerver, de gérer comme il faut, etc. Et le Yitzhara, il met le paquet pour que tu fautes. Pour que tu fautes le soir même ou le lendemain, dès que possible. Oui, pourquoi?
On cherche la bonne conscience pour dire ce qu'on a fait, c'était pas une faute.
Pourquoi? Alors justement, cette bonne conscience, c'est une folie. Parce que c'est faux en vérité.
Oui, mais des fois, on dit, voilà, j'ai fait ça parce que j'étais obligé de faire ça.
Par exemple, quelqu'un qui va aller travailler Shabbat. D'accord? Et qui va se rassurer sa conscience, il va se dire, bon, je suis parti travailler Shabbat, mais j'avais pas le choix. Il fallait bien nourrir ma famille.
Oui.
D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il vient de faire?
En
se disant, bon, ben, je suis un bon juif quand même, c'est comme ça, c'est tout.
Voilà.
D'accord? C'est pas bon ça. Ça, c'est un piège du Yitzhara. C'est un piège du Yitzhara de me rassurer, de me dire, c'est pas si grave ce que tu as fait. C'est une folie. Ça s'appelle une folie.
S'il n'avait pas le choix.
C'est quoi une folie?
Je vais vous prendre un exemple maintenant. Moi, depuis quelques temps, je suis chômeur Shabbat. Enfin, je fais certaines choses.
Baruch Hashem.
Pour les deux jours de Yom Tov, là pour Rosh Hashanah, le deuxième jour, à midi et demi, j'ai ma mère qui est très âgée, qui m'a téléphoné, la dame qui s'occupe d'elle, elle m'a dit, vous avez ramené la bouffe pour trois jours, on a oublié de rentrer le manger du Shabbat à la maison, dans le frigo, ça a pourri. Ma mère, elle est à 17 km, je laisse ma mère sans manger ou je l'amène le Shabbat? Ben, moi j'ai pris la voiture, je lui ai amené le Shabbat.
C'était Azour.
Non,
je vais dire...
On aurait pu faire passer par un goy, par exemple.
Comment
par exemple, demander un taxi de le faire, on le payera après. Il y a des solutions.
Bon, enfin, c'est pas...
Bon, c'est facile maintenant. Il y a Kippour qui arrive, voilà.
Non,
non, vous l'avez fait. Non, vous l'avez fait de bon cœur. Voilà, vous l'avez fait de bon. Vous l'avez pas fait pour embêter Dieu.
J'ai dit bon, je vais le faire incognito.
Ah bah maintenant c'est raté alors.
Il y a le rabbin qui est tombé sur lui.
Attends, j'ai raconté à
Francis. Francis, t'as pas mis la coupe à ce jour-là.
Non mais moi, attends, j'arrive, je me gare. Sur qui je tombe, je ne vois jamais. Je tombe sur Shemaoun.
Shemaoun, c'est qui?
Le professeur. Ah. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là, Trigalou, ta mère, elle n'est pas chez toi. Je dis, non, elle veut plus de passer, j'ai mis son Shabbat. J'ai expliqué. J'ai rien. Alors, quand on a un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait?
C'est assourd, on trouve... il y a des solutions. Il y a des solutions, on fait passer par un goy, ou bien vous montez dans un taxi éventuellement, mais c'est pas vous qui conduisez, enfin il y a des solutions. C'est pas...
Ah, quelle différence.
Non, c'est pas la même chose.
On est à Mendy pour lui dire comment je fais.
Bon, la prochaine fois vous ferez mieux. Je voulais juste finir de répondre à la question. C'est quoi un esprit de folie? Un esprit de folie, par exemple, c'est quand je rentre dans un magasin, d'accord? Je rentre dans un magasin, je vais acheter un produit dont je n'ai pas besoin. Vous me suivez, M. Trigalo? Je vais acheter un produit dont je n'ai pas besoin, mais je sais que j'en ai pas besoin. C'est quoi l'esprit de folie? C'est que à ce moment-là, je vais me convaincre que j'en ai besoin. Alors qu'au fond de moi, je sais que j'en ai pas besoin. Mais je me convainc que j'en ai besoin. Et que ça va me servir un jour. Et que ça me sert maintenant. Mais quand je rentre à la maison, je sais que ça me sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est ça l'esprit de folie. C'est la même chose avec le Yitzhara. Le Yitzhara, il te fait croire que c'est pas grave. Alors qu'en vérité, c'est grave. Et tu réalises après que c'est grave. La preuve, c'est que ça te dérange après. Vous aviez des remords après avoir pris la voiture?
Bien sûr. J'avais des remords de ne pas avoir dit à la dame qui se faisait, de ne pas avoir mis tous les trucs au frigo moi-même.
D'accord. Mais après que vous avez pris la voiture, comment vous sentez par rapport à ça?
Non, j'ai fait mon devoir.
Bon.
Hein?
D'accord. C'est pas... Je parle plus d'une avéra personnelle. C'est déjà encore...
C'est un cas
plus pointu. Ouais.
Non, oui. Moi, je trouve que sa question, vous avez répondu à côté. Dans le sens où il a dit qu'il pense que son Yetzer Hara, des fois, il a trop de force par rapport à notre capacité de résister à lui.
Alors
En fait, dans sa question que j'ai compris, il pensait que les forces... ne sont pas égales. Ils pensent que le Yetzirah est plus fort que nous.
Les forces sont égales. Le Yetzer Tov est beaucoup plus fort que le Yetzirah. Seulement, le problème, c'est que c'est un amour caché. C'est-à-dire que tu as une bombe atomique en toi, mais elle est cachée. Le Yetzirah, c'est pas une bombe atomique, c'est des petits explosifs, c'est rien. Mais lui, ils sont là, ils sont visibles. Toi, tu as une bombe atomique qui est cachée. D'accord? Qui est tellement cachée que des fois, tu ne trouves même pas. On explique en Chassidut que c'est comme on explique la différence qu'il y a entre le feu qu'il y a dans une braise et le feu qu'il y a dans du silex. C'est quoi la différence? C'est que le feu qu'il y a dans une braise, même quand tu le vois pas, tu sais qu'il est là. La preuve, c'est que si tu vas souffler, eh ben, il va sortir. Le feu qu'il y a dans le silex, tu peux souffler autant que tu veux, il n'y a pas de feu. Seulement, quand tu vas prendre les deux pierres, tu vas les frotter, là, tu vas découvrir qu'en vérité, il y avait un potentiel de feu à l'intérieur. Donc, de la même manière, dans la relation qu'on a avec Dieu, il y a plusieurs niveaux. T'as des gens, c'est pas une braise, c'est du feu. Bon, bah, au Hachem, Mazal Tov pour celui-là. T'as des gens, c'est une braise. Ça veut dire que ça se voit pas, mais dès que tu le pousses un peu, ça décolle. T'as des gens, tu peux y aller, il est là, il est éteint. Tu crois qu'il est éteint, mais tu crois qu'il est éteint. Mais quand tu prends, tu le frottes, tout d'un coup, tu découvres qu'en vérité, il a un potentiel de te donner un nombre illimité de feu. Parce qu'une pierre de silex, elle peut te donner autant de feu que tu veux. Illimité, sans fin. C'est ça, un juif. Un juif, en vérité, c'est comme une pierre de silex. C'est-à-dire, toi, tu crois qu'il n'y a rien. Toi, tu crois que c'est une pierre, c'est inerte, il n'y a rien du tout, c'est mort. Tu le prends, tu frottes, et tu découvres qu'en vérité, il y a une force en lui. Ça, c'est l'amour caché qui est en lui. Mais on l'appelle, c'est l'amour caché. C'est la hava souterraine. Mais, évidemment, c'est difficile.
Ça veut dire que tout le monde est pourvu de cet amour caché.
Tout le monde. Personne, aucun juif au monde n'est pas pourvu de cet amour.
Pourquoi on appelle ça hava souterraine, pas ira souterraine?
Parce que c'est pas une crainte. Non? C'est pas une crainte de Dieu, c'est un amour.
La bombe atomique, elle risque
parce que
de sauter.
Elle risque pas
de sauter.
Et des fois, ça arrive quand on frotte. D'accord.
Mais
des fois, il y a un appel de part de Dieu, alors bon, elle bouge un peu.
Ceux qui font mission de pêche, c'est pas par crainte, ils le font par amour.
C'est pas. C'est
quand... Si c'était par crainte, ils ne feraient pas. Ils diraient OK.
Quand je dis Ahava Mesuteret, c'est l'amour qu'un juif a envers Dieu qui fait que, comme il aime Dieu, il ne veut pas se séparer de Dieu. C'est un amour qui fait qu'il ne veut pas se séparer de Dieu. J'aime Dieu, je veux pas me séparer de Dieu, je me sens un bon juif. J'ai pas envie de dire que je suis pas un bon juif. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que je ne veux pas arriver à une situation qu'on me dit que je suis plus juif. c'est un point de rupture, c'est un point que je ne peux pas dépasser.
La question, c'est pourquoi je ne veux pas arriver à cette situation. Est-ce que c'est parce que j'aime Dieu ou c'est juste parce que j'ai peur de ce qui m'attend plus tard?
Mais c'est les deux. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas te séparer de lui.
Je pense pas. Non, mais si tu ne veux pas te séparer de lui, tu ne te sépares pas du tout de lui.
Non, attends, je reprends la question. L'amour et la crainte sont étroitement liés. Parce que quand j'aime quelqu'un, j'ai peur de le décevoir.
Non, je ne parle pas de la peur de le décevoir, je parle de la crainte de la
punition. La crainte, non, j'ai pas peur. T'as peur de Dieu?
Comment?
Est-ce que t'as peur de Dieu?
Évidemment.
T'as peur?
C'est ma motivation première.
De quoi t'as peur? Qu'est-ce qu'il va te faire?
Tout ce qui est marqué dans la Torah.
T'as peur qu'un jour ça va tomber dessus sur la tête?
Bah oui.
Je n'avais peur, on ne ferait aucune.
Moi, ça c'est
réellement. Je n'avais réellement
peur. T'as peur, Mamash? T'as peur?
Pas peur, on peut faire tout ce qu'on veut.
T'as peur parce que tu respectes Dieu ou t'as une peur qui va te taper?
Non, j'ai une peur que c'est pas la vie éternelle, que on est de passage là, et donc si je fais des fautes, je risque d'avoir que cette vie.
T'as déjà vu le Gehinnom en haut, c'est commencé?
Mais non,
peut-être c'est pas si grave que ça.
Et ça se trouve, il
n'y
a même pas Dieu.
Non, mais c'est ce qu'on disait.
Il y a une miracle.
Non, je vais pas. Non, c'est sérieusement.
Oui, mais pour ça que.
Je vais te donner l'approche du Tania.
Je pense.
L'approche, excuse-moi, hein, je vais être un peu. L'approche du Tania, c'est que la peur de la punition, c'est comme la relation qu'on a avec nos parents. D'accord ? Si tu veux, la peur de la punition, c'est quand on est enfant. Mais après, quand on grandit. J'ai pas peur que mon père va me punir. J'ai peur de le décevoir. J'ai pas envie de le décevoir. Et en vérité, après, c'est plus l'amour qui ressort. Ça veut pas dire que je l'aimais pas avant.
Mais pourquoi?
Ça veut dire avoir la relation avec Dieu, de dire que je fais Rosh Hashanah et Kippour parce que j'ai peur que Dieu va me donner une mauvaise année, donc j'essaie d'avoir une bonne année, pourquoi pas? Mais c'est vraiment primaire comme sentiment.
Tu peux pas comparer au père. Parce que quand tu grandis, tu sais que ton père n'a plus le même pouvoir sur toi. Ton père, il te fera plus.
Non, même si c'est le même pouvoir. Même s'il peut te cogner comme avant.
Imagine-toi que si tu restais dans ta tête tout le temps comme étant un enfant de 5 ans avec la même vision de ton père, tu aurais encore eu peur.
Non, parce que ton père, parce que la relation qu'il y a entre ton père et toi a mûri. C'est plus une relation de peur, de punition. C'est une relation que je veux pas le décevoir parce que je sais que c'est mon père et je le respecte. Et c'est à ça qu'on doit aller par rapport à Kadosh Baruch Hu. La peur de la punition. Bien sûr qu'il y aura une punition si on se comporte mal, c'est clair. Je dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais à mon avis, en tout cas, moi, ça me dérange beaucoup. Ça ne doit pas être ça la relation qu'on a à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on peut pas être la Rosh Hashanah et dire je fais des bonnes filotes pour que j'ai une bonne année et que Dieu ne me punisse pas. Non, je veux être quelqu'un de bien, je ne veux pas décevoir Dieu, donc j'essaie de m'excuser pour ce que j'ai fait et j'essaie de faire en sorte que cette année, je ne le décevrai pas. Ça c'est la raison première. Mais est-ce qu'il va me punir, est-ce qu'il va pas me punir? J'en sais rien, moi, s'il va me punir ou pas me punir.
D'un autre côté,
j'y pense même pas.
D'un autre côté, on nous dit c'est le jour où on va élire Dieu, et donc oui. C'est le roi, et devant oui. Le roi, on ne doit pas bouger, on ne doit pas truc, on doit le respecter, etc.
Mais est-ce que je respecte le roi parce que j'ai peur qu'il va me punir?
Ben évidemment.
Pas du tout.
Ben, si.
Je respecte le roi parce que j'aime le roi, les sujets aiment le roi, ils l'ont nommé, ils l'ont couronné.
Parce qu'il a aussi peur, hein.
Il y a aussi ça, mais c'est primaire, ben, oui. Ça. C'est primaire, c'est très primaire.
Primaire, mais on va. Peut-être primaire, mais enfin, c'est ce qui ressort le plus.
Faut passer au secondaire, alors.
moi, je dirais en crainte.
Oui.
Chaque fois qu'on s'approche de Dieu, donc ça arrive quelquefois, je pense que n'importe qui, quelquefois, bon, on est dans un élément où on est bien, et puis bon, on essaie de s'approcher de Dieu. Et quelquefois, en essayant de s'approcher de Dieu, justement, il y a ce que les prophètes ils prennent en eux-mêmes quand ils ont une sorte de prophétie. Et le tremblement, c'est ce qui arrive à un moment donné. Du coup, par exemple, on pense à Dieu, on pense à des choses très très bien. On monte. Mais on voit qu'à un moment donné, quand on monte, il n'y a plus possibilité de monter parce que c'est pas une crainte. C'est une. Comme le tremblement d'un prophète quand il va avoir une vision ou un rêve ou n'importe quoi. On n'arrive pas. Il y a des degrés auxquels on n'arrive pas.
C'est une peur révérentielle.
Voilà. Et là, on a les membres qui tremblent. Et on est obligé quelquefois de dire.
De se freiner.
Bon, j'arrête,
oui.
Je redescends.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que si on essaie de monter trop haut, c'est peut-être aussi.
C'est pas bon.
D'orgueil.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Donc il faut savoir jusqu'à quand.
C'est une peur révérentielle.
Jusqu'à quand on peut s'arrêter.
Il faut savoir s'arrêter. Ouais. C'est une peur. C'est comme on avait donné une fois l'exemple dans le Tania, je crois que c'était en chapitre, plus quel chapitre c'était, sur 3 ou 4. On avait donné l'exemple, quand tu es devant un tzaddik, et que tu trembles, t'as peur qu'il va t'attraper. De quoi t'as peur? D'accord? Et alors? T'as peur qu'il te scanne et quoi? Et alors? Qu'est-ce qu'il va te faire?
Qu'il dise je suis un mauvais.
De quoi t'as peur? T'as peur qu'il dise à tout le monde qui tu es? C'est ça que t'as peur?
Non, c'est pas de la peur.
C'est pas de la peur. C'est beaucoup plus profond que la peur. C'est du respect, de la révérence. Et j'ai honte de ce que j'ai fait. Parce que je me sens transparent. Je sens transparent devant le tzaddik et donc ça me dérange beaucoup. C'est pas une peur, c'est pas une peur qui va me frapper. Il va pas me frapper, il va pas raconter, il va raconter à tout le monde ce que j'ai fait. C'est pas de ça que j'ai peur. Je me sens nu. D'habitude je mets des vêtements et là je me sens tout nu. Et donc je me sens gêné. C'est la même chose.
La Torah ne s'adresse pas à des enfants ou à des gens primaires.
La Torah
ne s'adresse pas à des enfants.
Ou évidemment, oui.
Pourtant, dans la Torah, chaque avéra est suivi d'un honesh.
Évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de punition.
Non, mais c'est-à-dire que la Torah utilise la punition pour nous faire respecter les
punitions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de punition. Non. Je dis qu'on démarre avec ça. Mais après, il faut quitter cette approche.
C'est pas marqué, ça, qu'il faut quitter cette approche.
Enfin, en tout cas, le Tanya le dit clairement. Il dit que.
Après, c'est une approche chassidique.
Non, pas que chassidique. Pas que chassidique. C'est qu'on ne peut pas être constamment, après avoir la relation avec Dieu, je le sers parce que j'ai peur qu'il me punisse. D'accord.
Non. Si tu choisiras la vie ou la mort.
Non, c'est Dieu il te dit si tu fautes, tu seras
la mort et si tu fautes pas, tu regardes.
Pourquoi tu vas faire Kippour?
Il dit pas tu attends. M'aimes donc tu fauteras pas.
Attends, excuse-moi. Je te pose une question, pourquoi tu vas faire Kippour? Pourquoi tu vas faire Kippour?
Pourquoi je vais faire Kippour?
Oui.
Pour me faire pardonner.
Pour te faire pardonner. Pourquoi tu penses que Rosh Hashanah ça s'est pas bien passé?
Parce que je m'estime pas comme étant un sadique.
D'accord. Donc tu penses que ça pas été pardonné. Donc tu vas faire Kippour? D'accord, pour demander à Dieu de te donner une bonne année.
Pour me donner, qu'il me pardonne.
Ça, c'est la raison pour laquelle tu fais Kippour. Pour qu'il te pardonne, pour que toi, tu aies une bonne année.
Non, bah, je vais pas te parler de bonne année.
De quoi?
Je me pardonne.
Qu'il te pardonne. Qu'est-ce qu'on a à faire que tu te pardonnes?
J'ai pas envie d'avoir des fautes, parce que je sais que si j'ai des fautes, je parle pas de l'année.
Alors quoi?
Les fautes, c'est pas sur cette terre.
Non, je parle maintenant, là. Pourquoi tu vas faire Kippour? Dans quelques jours, là. Dans 4 jours, tu vas faire Kippour? Dans 5 jours, tu vas faire Kippour? Pourquoi tu vas faire Kippour? Pour te faire pardonner. Et pour que Dieu te donne.
Rien.
Donc, t'as peur? Est-ce qu'il y a une peur à Kippour? T'as peur de quoi?
D'avoir des fautes.
Et alors, s'il y a des fautes?
S'il y a des fautes, je sais que c'est des choses qu'on garde avec nous, quoi. C'est tout.
Et alors?
Alors,
s'il y a des fautes? Madame, j'ai une tâche. Alors, j'ai une tâche.
Qu'est-ce que
ça va pas déranger toute l'année? Pourquoi tout d'un coup à Kippour ça me dérange?
Ça me dérange pas à Kippour. Seulement, j'utilise Kippour pour m'enlever cette tâche.
Bah oui, c'est comme dans ce genre. Oui. Ah, donc Kippour, c'est. Donc en vérité, Kippour, tes fautes ne te dérangent pas.
Pourquoi on n'attend pas la mort pour prendre un
bisou? Moi, je vois différemment Kippour. Moi, je vais vous dire comment moi je vois Kippour. En tout cas, selon la chassidoute. Moi, je vois Kippour, d'accord? Kippour, c'est comme un jour de grande proximité avec Dieu. C'est un jour dans lequel Dieu allume la lumière. Et quand il allume la lumière, automatiquement, des choses que pendant toute l'année, ça me paraissait obscures et que ça me paraissait des choses qui ne dérangent pas ou que c'est pas grave, tout d'un coup, Dieu, à Kippour, il allume la lumière de ma neshama. Il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus évidentes. Et là, je comprends que des choses que je croyais pas importantes sont importantes. Donc, je vois beaucoup plus clair dans ma vie. Il y a une grande clairvoyance à Kippour. Mais seulement, il faut après ouvrir les yeux. Mais à mon avis, il y a une grande clairvoyance à Kippour qui te permet de faire de l'ordre dans ta vie et de voir ce qui est important, ce qui est moins important. Le problème, c'est que cette clairvoyance, elle tient pas longtemps. Après Kippour, elle s'en va. Ouais. Ça, c'est le point principal de Kippour. Cette clairvoyance, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on mange pas, pour quitter au maximum le matériel, pour laisser au maximum le spirituel s'exprimer. Et c'est cette clairvoyance qui fait que je me sens petit devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que la Neila, c'est le moment le plus fort, parce qu'on a tellement mis le matériel de côté, parce que c'est le moment où on a le plus faim, d'accord? Que le spirituel s'exprime le mieux. C'est le meilleur moment où le spirituel s'exprime. Et là, je me sens que, je sens que je vais me concentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Que toute l'année, je me concentre sur des choses qui sont pas vraiment importantes. Là, je vais me reconcentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Et j'aurais aimé que toute l'année, je sois comme ça. Je me concentre sur les choses qui sont vraiment importantes. Seulement, je n'y arrive pas. D'accord? Enfin, toute l'année, après, j'ai un esprit de folie qui me fait croire qu'il y a d'autres choses plus importantes, le plaisir matériel, etc. Alors, mais quand j'arrive à la Neila, j'arrive à un moment de vérité. Un moment dans lequel ma Neshama, elle me montre qu'est-ce qui est vraiment important. Et
pourquoi,
je le sens, ça.
Pourquoi t'es comme ça? Parce que j'ai moins de fautes. Parce que Dieu est facile.
Parce que je me suis préparé, parce que j'ai moins de fautes.
Oui, Dieu est facile par toutes les fautes. Donc, moins de fautes, donc tu vois.
Donc, je me sens plus proche de lui. Oui,
exactement.
Sûr.
Donc, voilà. Le but de Kippour, c'est effacer les fautes.
Évidemment. Mais c'est pas pareil, parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur qu'il va me punir. Il faut enlever, ça c'est au début, ça, mais après, on peut pas vivre toute une vie parce que j'ai peur qu'il va me punir. J'ai peur qu'il va me punir, pourquoi tu vas réfléchir comme ça qu'il va te punir? Pourquoi tu veux qu'il te punisse?
Parce que Mida, qu'il y a des Mida.
C'est comme t'as un enfant, d'accord, qui a grandi, qui a maintenant 25 ans, et j'ai peur que mon père me punisse. C'est pas pour ça que je ne déçois pas mon père, parce que je veux pas le décevoir.
Mais quelque part, même.
Tu comprends? Un exemple. Oui, enfin, il y a un jeune qui m'a raconté, d'accord, il a commencé à fumer, et il veut pas que son père le sache. D'accord, il me dit, surtout ne dis pas à mon père. D'accord, il dit surtout ne dis pas à mon père. Pourquoi il veut pas que son père le sache? D'accord? Tu crois parce que son père, il va le punir, il va le frapper, son père? Il va pas lui faire de la peine, il sait que ça va lui faire de la peine. Alors pourquoi il le fait? Parce qu'il a un esprit spolé qui lui dit fais ce que tu veux, mais il veut pas quand même décevoir son père.
Tu crois vraiment que le roux, ça lui fait de la peine d'avoir.
Évidemment. Bon, ça, c'est une autre question, ça. Non, je rentre pas dedans.
Est-ce que de manière, cette relation à Dieu, elle doit être véhiculée que par notre propre identité, ou l'identité peut-être plus large, c'est-à-dire de toute la famille, le peuple juif. Parce que finalement, si on a un sentiment où, quelque part, moi, à la rigueur, je m'en fous aussi, je veux conférer à l'heure, mais je serais peut-être plus touché si. Pour ça, souvent, on est plus atteint par des épreuves que peuvent avoir des proches que par soi-même, des fois.
Du style, par exemple, quand la situation en Israël s'empire, donc je me remets en question pour essayer de...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une question d'identité. C'est pas qu'une relation personnelle.
Tu as raison.
Parce que si j'ai peur que pour moi, que pour mes fautes, c'est une façon un peu égoïste de vivre sa relation.
Alors, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Que quand on arrive à des moments... Il y a des moments clés dans la vie dans lesquels la Neshama se réveille. Ça peut être Dieu préserve quand on a perdu un proche. Ça peut être quand ça va mal en Israël. D'accord ? Moi, je peux vous dire, j'ai vu des gens que quand ça allait mal en Israël, tout d'un coup, ils sont venus, ils veulent mettre les tefilines. Alors que c'est les gens qui sont... que même Kippour ne les a pas touchés comme ça. Parce que c'est très difficile à déterminer qu'est-ce qui a touché, qu'est-ce qui a avivé sa Neshama. Mais ce qui est clair, c'est que chacun de nous, au fond de lui, il a une Neshama et qu'il sait déjà au fond de lui. C'est très important à se le dire ça, à se le rappeler. Quand on va voir, par exemple, quelqu'un qui est loin de la Torah, et bien chacun de nous, on peut être des fois loin, savoir qu'en vérité, c'est en nous. Et c'est en lui, le fait qu'il est juif, c'est déjà en lui. Il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau. C'est déjà en lui, il suffit simplement de développer quelque chose qui était déjà là. Ça n'existe pas un juif qui n'est pas juif, ça n'existe pas. Il est toujours juif.
Mais quand un jugement, si je peux me permettre,
oui.
Quand un jugement doit être, c'est pour répondre à sa question, quand un jugement doit être donné, je dis par exemple pour le cas, alors on dit que Akadosh Baruch Hu, il juge la personne, pas seulement pour lui, il juge ses ancêtres, oui. Ses enfants, et sa descendance. C'est-à-dire que quand ton jugement, il va te donner, parce que quand il va te juger à toi, il sait qu'il va toucher, excuse-moi, admettons, ta fille qui va être prise par le chagrin, par ceci. Donc quand tu es jugé, quand on est jugé nous-mêmes, on est jugé par rapport...
Il y a toujours des relations collatérales.
Voilà, voilà. Donc on est jugé par rapport à nos enfants, à nos ancêtres, à nos aïeux, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait.
C'est vrai, mais bon, en général, on réfléchit plus par rapport à ce qui s'en engendre pour moi.
Oui, surtout que la teshuva, elle peut pas considérer qu'elle est nous à toute individuelle manière.
Ok, on va revenir un peu au Benoni maintenant. On n'a pas fait beaucoup dans le texte, on va avancer un peu dans le texte. Donc on va revenir au Benoni. Qu'est-ce qui se dit le Benoni ? Le Benoni se dit, il se convainc, qu'en vérité, il a en lui la capacité de casser son Yetzirah. Il peut le faire. D'où il sait qu'il peut le faire ? Il dit, regarde, t'as bien vu que ce juif qui était Racha de chez Racha, le jour où on lui a dit, convertis-toi, il s'est pas converti. Pourquoi ? Parce qu'il avait un instinct de judéité qui était plus fort que son envie de faire des avérantes. Donc, qu'est-ce qu'il se dit, le Benoni? Il se dit, en vérité, cet instinct de judéité, je pourrais l'avoir quand je veux, où je veux. Seulement, et là seulement, chez Nirtnasbo Rouachtout, je relis dans les mots en bas de la page 195, d'accord? Donc, non, pardon, là on est en haut de la page 196, et là chez Nirtnasbo Rouachtout, est rentré en lui un vent de folie, un esprit de folie, Venit Melo, et qui m'a semblé, chez Baverazo Odenubeya Aduto. Qu'il lui a semblé que même en faisant cette avéra, il restera toujours juif. Et que sa neshama ne sera pas séparée, son âme ne sera pas séparée du Dieu d'Israël. Mais en vérité, ça c'est un rouar shtout. C'est un esprit de saint vent de folie. Vegam aussi. Shoreach ha'avato l'Hashem amsuteret belibo. Et là, un deuxième point important. On avait dit tout à l'heure que cet amour est un amour qui est caché. Ça veut dire quoi qu'il est caché? Ben, ça veut dire qu'il est caché. Ça veut dire que des fois, ben, ça peut passer des années pendant lesquelles cet amour-là ne sort pas. Mais il est là. Mais il est caché. Comme la pierre du silex que je vous ai donné tout à l'heure. Cet amour envers Dieu est caché. C'est-à-dire que des fois, ça peut se passer des années comme ça. Un juif peut rester comme ça pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Imagine un juif qui était religieux quand il était jeune. Il a tout lâché. D'accord? Après, pendant 30 ans, tu n'entends plus parler. Ça le touche pas. Il n'en a plus rien à faire. Même pas qu'il pour rien du tout. Il n'en a rien à faire. Ça lui parle pas. Pourtant, il devrait avoir un amour qui est envers Dieu. Cet amour est caché. Et comme cet amour est caché, bah, des fois, même dès qu'il pour passe, il ne s'est rien passé du tout.
Oh, il est en stand-by.
Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a un appel de phare d'en haut. C'est très difficile à déterminer qu'est-ce qui fait qu'il se réveille. Ça peut être qu'on a dit qu'il a perdu un proche. Ça peut être qu'il y a eu un proche dans le ciel qui a pensé à lui. Et donc, du coup, le fait qu'il y a un appel de phare d'en haut, et ben, du coup, il se sent bouger. Il sait même pas pourquoi. Ça vient pas par hasard. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quand ça arrive un matin, par exemple, je me lève un matin, un jour, je me dis, ah, aujourd'hui, je vais assurer. Ça y est, je vais faire tes chouvas. Plus c'est venu, je crois, comme ça, c'est venu. Un matin, je suis venu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mangé la veille pour avoir ça? On dit que quand ça arrive, ça veut dire que il y a quelqu'un qui a pensé à moi dans le ciel. il y a un proche ou un tzaddik que je suis parti voir ou j'en sais rien, et quelqu'un qui a pensé à moi dans le ciel et qui a donné un coup à ma neshama. Et comme il a donné un coup à ma neshama, ma neshama elle a bougé, donc elle réveille mon corps. Et donc du coup, je me dis, il faut que je fasse teshuva. Ça vient un peu par hasard, des choses comme ça. Ça arrive aussi à Kippour. D'accord? Aval, mais, dit le Benoni, ani, moi, et neni rotse liot chote kamo lirpor emet. Dit le Benoni, moi, j'ai pas envie d'attendre qu'arrive une situation extrême, un point de non-retour, rentrer dans une église, pour qu'on me dise, ah, ça, je fais pas, c'est trop grave. Moi, je sais qu'en vérité, tout est grave. Donc le Benoni dit, je ne veux pas être fou. Et donc, je vais faire un effort maximal, pour ne pas être fou et pour ne pas être dans la bêtise de nier la vérité et de croire que certaines avérotes sont moins graves que d'autres. Donc c'est comme ça que le Benoni se travaille. Ça, c'est l'argument que le Benoni se donne. Il dit, il ne faut pas que je tombe dans le panneau du Yitzhara. En vérité, toutes les avérotes sont graves. Machen ken, bedavar, amasur la lev, deinu sheye e ara, maus mamash belev, vesanu betech latina, ou afilu shelo betech latina, in ze i efcher sheye bemet la mito. Là, un point très important qu'il dit. Finalement, le Benoni, rappelez-vous, on l'a dit, c'est celui qui a des pulsions négatives, mais qui arrive à les contrer. On te dit comme ça. Il y a des choses que le Benoni pourra faire de manière véridique, il y a des choses qu'il pourra pas faire de manière véridique. J'explique tout de suite ce que je veux dire. Par exemple, tout à l'heure, on a donné l'exemple d'une personne qui est coléreuse et qui va faire des efforts pour ne pas se comporter comme quelqu'un de coléreux. Et que c'est possible que pendant 10 ans, il ne s'est plus énervé. D'accord? Il a réussi à se maîtriser, à faire en sorte qu'il n'arrive plus à des situations qui l'énervent. Donc du coup, il s'est plus énervé. Est-ce que ça veut dire que véridiquement il a changé, il s'est plus nerveux? Non, c'est faux.
Non, il est toujours nerveux.
Il est toujours nerveux. Donc ça, c'est un changement qu'il pourra pas faire. Par contre, être capable de me travailler pour faire ressortir mon amour qui est envers Dieu, et essayer de le faire ressortir pour développer un maximum de mitzvot et de ne pas me faire avoir par le Yetzer Hara qui me fait croire que ça c'est grave et ça c'est pas grave. Ça, te dit l'Admor Hazaken, ça tu peux le faire de manière véridique. Tu peux le faire de manière véridique. Au contraire, quand tu fais une avéra, c'est là que t'es un menteur. Ça, c'est le chidouche qui veut dire ici. Parce que c'est un point très important. Vous savez, je vais raconter une histoire pour illustrer ça. Une fois, il y avait un chassid qui était toute la journée à la yeshiva. D'accord? Il était toute la journée à la yeshiva, au kollel. Et bon, après, avec le temps, la famille commence à s'agrandir et le kollel ne pouvait plus subvenir à ses besoins, comme il avait besoin. Donc, il a décidé d'aller travailler. Bon. Il a décidé d'aller travailler, il a commencé à travailler. Et petit à petit, bon, il venait avec les vêtements de chassid, etc., les papillotes et tout, etc. Bon, mais il a compris à un moment qu'on ne peut pas bosser comme ça. Donc progressivement, au début il gardait les vêtements, mais dès qu'il y avait un grand rendez-vous, bon, il enlevait un peu, il se mettait un peu à la mode. Après, le temps avançait, d'accord, avec le temps, bon, progressivement, il enlevait les vêtements, après même pour les plus petits rendez-vous, après progressivement, jusqu'à quoi à la fin, dès qu'il venait au boulot, il n'avait pas du tout le look qu'il devait avoir. Après, il a commencé à enlever ses vêtements, il a commencé à enlever sa barbe, etc., progressivement. Il commence à toucher un petit peu. Mais, par contre, quelque chose de très important, dès qu'il revenait à la ville pour voir son rabbi, là, il était tip-top, etc., le chapeau, etc., la totale. Bon. Ça durait pendant des années comme ça. Ça durait pendant des années que il avait deux vies. Il avait la vie qu'il avait quand il était chez le rabbi, et la vie chez le rabbi, et bon, on va dire le Shabbat quand il était chez lui à la maison, et la vie dans le business dans lequel c'était une autre personne, avec des autres vêtements, avec un autre langage, avec etc. Une fois, il s'est dit, ça suffit de mentir au rabbi. Pourquoi tu veux que je mens au rabbi? Je lui mens, je lui fais croire quelque chose que je ne suis pas. Il suffit de mentir au rabbi. La prochaine fois que je vais aller chez le rabbi, je vais m'habiller comme je suis habillé toute l'année. Et comme ça, le rabbi me prend comme je suis. Et s'il ne veut pas, bah tant pis. Au moins qu'il sache qui je suis. S'il ne veut pas de moi, bah tant, au moins qu'il sache qui je suis. Donc la fois d'après, il vient chez le rabbi. Il débarque donc avec les vêtements civils. Mais bon, pas les vêtements habituels. Et là, bien sûr, le rabbi lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Alors il répond, il dit, ben voilà, en vérité, j'ai voulu vous montrer comment je suis toujours, et donc je me suis dit que ça suffit de mentir. Alors le rabbi lui répond comme ça. Il lui dit, tu crois que je ne savais pas comment tu étais avant? Seulement il dit comme ça, je vais t'expliquer. Avant, quand je te voyais venir avec les vêtements du chassid, après c'est une idée qu'on peut élaborer dans sa tête. Quand je te voyais venir avec les vêtements du chassid, mais je savais que toute l'année t'étais pas comme ça, je me disais, peut-être qu'en vérité, qui il est vraiment? Il est comme il est maintenant, comme il se montre devant moi. Seulement toute l'année, il a du mal à être comme ça. Hein. Alors bon, son Yetzara est plus fort que lui, mais au moins, il a des moments de vérité. Au moins, il me montre qui il est vraiment, qu'en vérité, il a envie d'être un bon juif, d'accord, qui porte la kippa, qui parle normalement, qui a un langage de juif, etc. Quelqu'un de bien. Mais là, il dit maintenant, tu viens me prouver le contraire, là, maintenant. Là, tu viens me prouver qu'en vérité, au contraire, ta vraie vie, c'était quand tu étais dehors. Et quand tu étais devant moi, c'est un mytho. T'es un mytho. Là, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en vérité, un juif, quand il fait une avéra, c'est là que c'est un menteur. C'est là que ça ne correspond pas à sa réalité, ça ne correspond pas à qui il est. Quand il fait une mitzvah, c'est ça ce qui correspond à qui il est vraiment. Donc le fait de venir maintenant et se dire, mais attends, moi je vais faire une mitzvah, c'est pas cohérent par rapport à ce que je fais tout le temps, je suis un menteur. On te dit non. C'est pas quand tu fais une mitzvah que t'es un menteur. C'est quand tu fais une avéra que t'es un menteur. Ton yetzerara te fait croire des choses que tu n'es pas en vérité. Il te fait croire que tu es quelqu'un de pas bien, alors qu'en vérité tu es au fond de toi quelqu'un de bien. Donc quand tu vas faire tes shuvah, tu ne vas pas redevenir quelqu'un de bien. Tu vas, en vérité, continuer à être quelqu'un de bien et arrêter de te mentir. C'est un peu comme dans l'histoire de ce chassid-là. Ça veut dire que quand je fais teshuva, ça veut dire quoi? Je reviens en vraie valeur. Et je remonte qui en vérité j'aurais toujours, voulu être. Moi, je vois Kippour comme ça. Mis à part le fait que Kippour, c'est un jour de pardon, dans lequel on demande pardon à Dieu pour les fautes qu'on a fait. C'est trop facile de demander pardon pour s'excuser et compter recommencer les mêmes fautes. C'est pas ça, pardon. Quand je demande pardon, ça veut dire que je reviens en vraie valeur. C'est comme imaginer un homme qui a blessé sa femme et qui lui dit pardon, je te dirai plus ça. Quoi, je te dirai plus ça?
Non, mais c'est que d'accord ça. Bon, non, c'est pas grave, on peut demander la teshuva. Bon,
c'est pas ça qui pour.
Il y a une montagne d'efforts à faire.
Je voudrais m'arrêter un peu sur la teshuva. C'est un point très important ce que je voudrais expliquer maintenant. La teshuva, d'accord, la teshuva, c'est pas venir dire je ne recommencerai plus ça. D'accord? Oui, imaginez par exemple, quelqu'un est venu, d'accord, laissez-moi arriver au bout de raisonnement. Quelqu'un il est venu, il m'a traité d'imbécile. Et il me dit, je te traiterai plus d'imbécile. Ah, mais, Dormar, tu veux me traiter Dormar? Comment ça marche? Non, c'est pas ça. Parce qu'en vérité, quand on fait teshuva, on revient à la vérité. On a un instant de vérité dans lequel on revient en vraie valeur. Et on réalise que ce qu'on a fait n'est pas bien. Donc, la Gemara Sakan dans Igaret HaTshuva explique, dans le Tania, dans la section de Igaret HaTshuva, il dit que faire teshuva en se disant, je ne recommencerai plus tel avéra, c'est pas une teshuva.
Pourquoi?
Parce que j'explique. C'est quoi une teshuva? Teshuva, c'est dire, je ne recommencerai plus à fauter du tout. Ni dans ça, ni dans rien. D'accord? Alors, évidemment qu'une teshuva, ça prend du temps, que je veux pas tout changer d'un coup. Mais dans ma tête, je me dis, je ne recommencerai plus à fauter. Pourquoi? Parce que j'arrive à un moment de vérité. Un moment de vérité dans lequel je vois ce que j'aurais dû être réellement. Et ça, un moment de vérité, je peux vous dire qu'on le ressent le jour de Yom Kippour. On le ressent aussi, par exemple, je le ressens quand on est dans un endroit kadosh, comme le Ohel du Rabbi, ou comme le Kotel, comme les tombes de Tzadikim. C'est un moment dans lequel tu reviens à ta vérité et tu ressens comment t'aurais en vérité voulu être tout le temps. Est-ce que ça veut dire que tout le temps je suis comme ça? Non. Mais là je suis vraiment la personne que j'aurais voulu être. Là c'est la vérité. Et le reste du temps, avec la force des choses, quelque part je me mens. Mais c'est très important de comprendre ça. Le moment dans lequel je suis vrai, c'est Kippour. Et le moment dans lequel je suis faux, c'est toute l'année. C'est pas le contraire. Très important à comprendre ça. Pourquoi c'est très important? Parce qu'avec ça, ça me permet d'essayer de reproduire l'expérience de Kippour le plus souvent possible dans l'année. Se dire, je vais essayer de reproduire cette sensation de vérité que j'ai eue pendant Kippour, je vais essayer de la reproduire toute l'année. Ça, je pense que ça, c'est un enseignement qu'on peut avoir pour Kippour, mis à part la notion de kapara, etc., la notion d'un instant de vérité, un moment de vérité, un moment de proximité avec Kadosh Baruch Hu. C'est un moment dans lequel tu es tellement proche que tu comprends la bêtise que tu as fait. Tu comprends qu'en vérité, tu étais à côté de la plaque et que par rapport à ce que tu as gagné avec ta bêtise, par rapport à ce que tu as perdu, mais c'est vraiment insignifiant. C'est une bêtise, c'est vraiment dommage. C'est un roar shtout, c'est une folie. Parce qu'on arrive à un moment, on arrive à émettre un instant de vérité. Alors vous savez, des instants de vérité comme ça, on en a plein dans la vie. Il y a des gens, ça leur arrive qu'à la fin de la vie. Juste avant de mourir, ils regrettent tout ce qu'ils ont fait. Parce que des instants de vérité, on en a comme ça dans la vie. Des instants dans lesquels tu retraces ta vie et tu vois qu'il y a des problèmes. Tu te dis, mais c'est pas possible, comment j'ai pu faire ça? Alors, au lieu d'attendre Kippour, qu'est-ce que fait le Benoni? Il essaye en vérité de reproduire plein de mini Kippour toute l'année. Ça, on peut tous le faire. De se dire, pourquoi attendre Kippour pour faire teshuva? Pourquoi ne pas me remettre en question dès maintenant, dès tout de suite, et me dire que pourquoi faire une avéra et rentrer dans des idées de croire que c'est pas grave alors qu'en vérité c'est grave? Alors fais teshuva tout de suite. D'accord? Fais teshuva, ça veut dire reviens à ta vérité. Retenez ce qu'on a expliqué au Fabringue de Shabbat. On a dit que teshuva, ça veut dire revenir. Je reviens à celui que j'ai toujours été. Je reviens à ma vérité intérieure. Je recherche ma vérité intérieure. Je ne suis pas en train d'inventer de nouvelles choses. Je recherche des vérités intérieures. Comme on a expliqué ici. Changer mon caractère, je pourrais pas le faire. Mais par contre, arrêter de me mentir et essayer d'être quelqu'un de vrai, ça je peux le faire. Donc en vérité, la teshuva est très simple. Et ça, je voudrais m'arrêter ici pour aujourd'hui. La teshuva est très simple. Pour faire teshuva, la clé de la teshuva, c'est le émet, c'est la vérité. Ça, en vérité, on pourrait résumer en un mot le cours. Si vous voulez résumer, si vous rentrez chez vous ce soir à la maison et votre femme vous dit de quoi on a parlé au cours. Voilà, vous avez un mot, vous pouvez tout résumer le cours. La teshuvah est égale au émet, à la vérité. C'est un instant de vérité. Quand je fais une avéra, je me mens. Je me fais croire que c'est pas grave. Quand je fais teshuvah, je reviens à la vérité. Comment le Benoni fait toute l'année pour essayer de casser son Yetzara? Il essaye au maximum d'être sincère et d'être vrai. Et de se dire, franchement, honnêtement, qu'est-ce que je me dis que c'est pas grave? C'est grave ce que je fais maintenant. Et le fait même d'être quelqu'un de vrai, c'est la clé du succès. C'est pour ça qu'on dit que l'Admour Hazaken de ses chassidim, la qualité première qu'il demandait à ses chassidim, il leur disait, soyez des gens vrais. Parce que quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui se ment pas. Quelqu'un qui se ment pas, c'est quelqu'un qui avance dans la vie. Quelqu'un qui se ment, c'est quelqu'un que même quand les choses vont mal, il dit oui, en vérité, ça va bien. Comme dans les affaires. Quelqu'un de vrai, il avance. Parce que quand ça va pas, il voit que ça va pas. Le fait d'admettre que ça va pas, c'est déjà un grand, grand plus. Quand tu veux pas admettre que ça va pas et t'en as rien à faire, tu dis bah, c'est pas grave, et bah, tu avances quand tu prends le mur. C'est la même chose. Le but de Kippour, c'est d'avoir, d'accord, un cheshbon nefesh, d'avoir un bilan qui est émet, qui est amiti, qui est vrai. Ça, c'est le travail du Benoni, de savoir se remettre en question pour se dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? Donc, je voudrais juste résumer avec ça. D'accord? Parce qu'après, il parle encore d'autres thèmes. Bon, ça, je voulais pas rentrer dedans. La notion de, donc maintenant, on commence à comprendre un petit peu les trois définitions qu'on a. On a le tzaddik, le racha, le Benoni. Le tzaddik, c'est celui qui n'a pas de pulsion négative. Ça, c'est facile. Le racha, celui qui a des pulsions et qui se laisse avoir par ses pulsions. Le Benoni, c'est celui qui a des pulsions négatives. Que son Yitzhara lui fait croire que c'est pas grave si tu vas flancher de temps en temps, et que son Yitzhara Tov le ramène à la vérité en lui disant non, ne te fais pas avoir, c'est grave, ne sois pas choté, ne sois pas fou, ne dévie pas. Parce que il suffit d'une petite déviation pour qu'après, hop, ça avance, après c'est fini. Vous savez, il y a un mot dans la Gemara qui dit comme ça. Il dit, la première fois que tu fais une avéra, ça te dérange. La deuxième fois, ça te dérange un peu moins. La troisième fois, tu crois que c'est permis. Et Rabbi Israël le Salon, il rajoute, il dit, la quatrième fois, tu crois que c'est une mitzvah. C'est sérieux, ce que je vous dis. Très sérieux. D'accord? Et il y a des exemples qui sont donnés. Je donne un exemple. Imaginez, par exemple, un homme qui va commettre, Dieu préserve, l'adultère. Dieu préserve. Première fois qu'il va le faire, bien sûr, il se sent mal. Deuxième fois qu'il va le faire, il va sentir encore mal. Troisième fois, bon, comme il l'a fait trois fois, il va dire, bon, ça va, c'est pas la fin du monde. Quatrième fois, il va se dire, oui, c'est bien, comme ça, au moins, je suis bien avec ma femme. C'est-à-dire qu'il va trouver un truc, maboule, d'accord? Il va trouver un truc pour se dire qu'en vérité, ce qu'il a fait, c'est bien. Vous avez écrit ça? Oui, ça, c'est un roi, non, mais attendez, ça, c'est un roi Arshtout, ça, c'est un esprit de folie. Alors là, je vous ai fait une caricature, ouais. D'accord? Mais en vérité, on est tous comme ça. Ouais. D'accord?
Ça lui permet d'avoir le shalom. On est tous à la comme maison.
Ça. Voilà. Exactement. Ça permet d'avoir le shalom à la maison. C'est-à-dire que la première fois, il fait pas. Ça le dérange. Et ben, toute la verrotte, c'est comme ça. C'est-à-dire que, tu sais comment ça va être même une idée à la fin, il va se dire oui, la vérité, je vais arrêter de mentir à Dieu, ben dans ce cas-là, je fais la vera, au moins je suis vraiment, c'est rien de mentir. C'est faux, on te dit, c'est pas comme ça. Ta vraie vérité, c'est ta vérité spirituelle, c'est qui tu es. Ta vraie vérité, c'est celui que tu as été quand tu étais enfant. Avec une pureté intérieure. Et c'est cette pureté qu'on a le jour de Yom Kippour. C'est cette pureté, on dit que le jour de Yom Kippour, on est blanc. Comme un enfant, comme un ange. Parce qu'on redevient comme un enfant. Pur. Sans aucune imperfection qui est venue, qui vient déranger. Il faut essayer de rester pur un maximum comme ça. D'accord? Alors après, c'est pas facile, mais en tout cas, nous, ce qu'on doit essayer de faire, le jour du Yom Kippour, d'essayer d'arriver un maximum à cet instant de vérité, voilà, une kavana qu'on va avoir, et d'essayer de prolonger cette vérité un maximum toute l'année, de pas se faire avoir par son Yetzara pour se faire croire des choses qui sont archi fausses. Voilà. Voilà comment on peut terminer avec ça, Bezrat Hashem. Donc on est tous une bonne kapara à Yom Kippour, parce que n'oubliez pas, je voudrais rajouter encore un point. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire kapara?
Non.
Yom Kippourim, ça veut dire quoi?
C'est une réparation.
Alors, les gens traduisent le jour de Kappara. Les gens traduisent Yom Kippourim par le pardon. Ouais. Parce que Kappara, ça veut dire un pardon. Mais Kappara, en hébreu, ça veut dire aussi nettoyage. Nettoyage. Et Mamash, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer?
Décapé.
Ça veut dire que, décapé. Exactement, Mamash, voilà, décapé, Kappara, bien vu. Alors, ça veut dire, mis à part l'aspect primaire de Kippour qui dit, il va me pardonner mes fautes et il va me donner une bonne année et je vais pas souffrir, etc. Amen, d'accord? Amen, amen! Que Dieu nous l'amène, d'accord? Mais mis à part ça, il y a la notion de Kappara. Que Dieu me nettoie. Qui me nettoie, et que je suis, Mamash, je suis comme un ange devant Kadosh Baruch Hu. C'est écrit dans le Zohar que le jour de Yom Kippour, on est comme un ange devant Kadosh Baruch Hu. On est comme un malach. Un malach, il a pas d'avérote. Il est blanc. Blanc. Blanc, c'est-à-dire blanc de chez blanc. Plus blanc que blanc. Il n'y a pas plus blanc que ça. C'est fini. D'accord? Il est blanc de chez blanc. Ça, c'est Yom Kippour. on a effacé les avérotes, on a effacé les imperfections, on a effacé le mensonge, on revient à la vraie vérité, on revient à qui on est réellement. Et c'est pas par hasard, c'est pas au Hachem. Une des choses qui est encore très très respectée en Israël, c'est le jour du Yom Kippour. Alors Yom Kippour, je dis pas que tout le monde va dans les synagogues. D'accord? Je lisais récemment cette semaine là, je disais qu'en Israël, là, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui font Kippour, mais qui n'osaient pas venir dans les synagogues. Pourquoi? Parce que bon, comme pour eux, les synagogues, ils vont jamais toute l'année, donc ils se sentent un peu dépaysés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Chabad? Parce qu'ils ont fait une étude de marché, hein, d'accord? Et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très dérangés par ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord? Écoutez bien, très sérieux. Ils ont créé un concept qui s'appelle Bet Knesset Apatouar. C'est quoi? C'est les synagogues ouvertes. Alors c'est quoi? Ils ont fait des grandes, des structures, des détentes, d'accord? Ils en ont fait comme ça des dizaines en Israël. Et chaque année, ils en rajoutent des dizaines. Et Bet Knesset Apatouar avec des chaises, d'accord? C'est vraiment un truc temporaire. Pour essayer de mettre au maximum les gens à l'aise. Et ils ont fait des spots publicitaires, ils en ont parlé à la télé, ils en ont parlé à la radio, ils en ont parlé partout, d'accord? Alors au début, quand ça a commencé, il y avait quelques dizaines de personnes qui venaient. Maintenant, ça marche tellement bien que dans pratiquement chacune de ces Bet Knesset Apatouar, il y a des centaines de personnes qui viennent. La majorité de ces gens sont des gens qui venaient pas à la synagogue avant. Et peut-être n'y vont pas pendant l'année non plus. En tout cas, pas pour le moment. Après, progressivement, ils viennent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là avant? Ces gens-là avant, ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient à Kippour?
Ils
restaient à la maison, ils regardaient la télé, ils étaient en vélo, on comprend pas la voiture à Kippour en Israël, d'accord? Ils étaient en vélo, bon, ils essayaient, alors tu vas me dire, mais faire du vélo, c'est assourd, on n'avait pas le droit de toute façon. Pourquoi ils faisaient ça? Ou bien ils regardaient des films, il y en a qui passent toute la journée à regarder des films. Il y en a toute la journée de Kippour, ils passent à regarder des films. Kippour regarde des films, ils regardent des films. Pourquoi? C'est une manière pour lui, d'accord? C'est une manière, parce qu'il connaît pas! Il connaît pas, d'accord? C'est une manière pour cette personne-là. D'exprimer le fait que ce jour-là est différent. C'est-à-dire que c'est Neshama, elle sent qu'il y a quelque chose. Elle sent que c'est pas normal. Elle sent qu'il y a un problème, comment je me comporte d'habitude. Donc, comme il n'y a rien d'autre, alors il va regarder des films. Mais on peut pas dire qu'il a pas fait Kippour, cette personne-là. Il a fait Kippour. À sa façon. Il a fait Kippour. Je dis pas que c'est cachère, ce qu'il a fait. D'accord? Il manque des choses. Mais il a fait Kippour en montré que Kapara, qui se nettoie, ça veut dire qu'il montre que ce que je fais toute l'année, c'est pas normal. Ce que je fais toute l'année, il y a un problème. Eh ben, en Israël, d'accord? Ils ont fait des sondages. Alors bon, ils ont posé la question aux gens. Est-ce que vous comptez jeûner à Kippour? Est-ce que vous comptez, je pourrais pas vous donner les pourcentages exacts, mais un pourcentage très très grand, très très fort. D'accord? On est à pratiquement vraiment des pourcentages très 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 élevés des gens qui jeûnent. Alors après, il y a des gens qui disent, je jeûne, pour la santé, etc. C'est du baratin, ça, d'accord? Bon, tout d'un coup, là, j'ai décidé de... Parce qu'en Israël, il y a des gens qui sont un peu durs, tu vois. Il ne veut pas dire qu'il a jeûné parce que c'est Kippour et parce qu'il faut vivre pour Dieu. Peu importe pourquoi. En tout cas, il a jeûné. Il y a un pourcentage très, très, très élevé de gens qui jeûnent. Et en tout cas, même ceux qui ne jeûnent pas, ce jour est différent pour eux. D'accord? Il y a un autre pourcentage aussi qui est très, très proche d'un autre pourcentage, qui est le pourcentage de la Brit Mila. Pourcentage de la Brit Mila. Vous savez, il y avait une, je sais pas si vous avez, enfin, vous êtes plus âgé que moi, vous avez dû connaître certainement, il y avait une, en Israël, il y avait un parti vraiment anti-religieux qui était comment il s'appelait. Non, c'est pas, mais, je sais pas si c'était Meretz, qui était dirigé par une dame qui s'appelait Shulamit Aloni.
Ah, Bantlaham, elle était ministre de l'éducation nationale.
Cette Shulamit Aloni, d'accord, c'était, voilà.
Ah, c'est une vraie salope, c'est ouais, il a fait beaucoup de mal, hein.
Il a profité qu'on avait dans le Torah. Alors, je suis l'ami Taloni. Ça veut dire que vraiment, elle a fait passer plein de décrets contre les religieux, très très durs. Très très durs. Vraiment anti-religieux, mais vraiment, ça veut dire que c'était, pour un religieux, dès qu'il imaginait Satan, il imaginait elle. D'accord? Et une fois, elle a été interviewée à la radio. C'était enregistré. Une fois, elle a été interviewée à la radio. Une radio, donc, Chiloni, hein, pas religieuse. On l'interview, etc. Et donc, pareil, je mets son discours, elle rajoute des couches contre les religieux, etc. Et à un moment, celui qui l'interview, il la prend par surprise, il lui dit, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je crois qu'elle allait avoir un petit enfant bientôt, il lui dit, est-ce que votre petit-fils aura la Brit Mila? Et là, il y a un blanc. D'accord? Il y a un blanc dans l'interview. Quelqu'un qui l'a entendu, qui m'a dit. Il y a un blanc. Et elle répond, elle dit, oui, il aura la Brit Mila. Alors celui qui l'interviewe, il dit, mais pourquoi il aura la Brit Mila? C'est un acte religieux. Il y a encore un blanc. Il dit, je sais pas, peut-être qu'il l'aura pas. Alors dans ce cas-là, pourquoi elle a répondu oui? Pourquoi elle a pendu que la Britney là?
Non, elle aurait dû dire, bon, ça c'est mes enfants, je suis pas responsable.
Pourquoi elle a fait la Britney là? Pourquoi elle a fait la Britney là? Elle a fait la Britney là.
C'est son enfant à elle.
D'ailleurs, en passant, il y a une partie de ses enfants qui ont fait échouer, etc. Bon, c'est une autre histoire, ça.
Non, mais c'était son enfant à elle ou l'enfant de sa fille?
Non, c'est ses petits-enfants
qui ont fait échouer. Donc elle pouvait parfaitement dire, ce sont mes petits-enfants, je n'ai rien à voir, moi.
Non, elle a posé la question, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a dit, elle veut qu'ils aient la Britney là. Pourquoi? D'accord. Ou bien, regardez, un autre exemple plus récent que ça. Il y a un autre parti en Israël qui s'appelle, alors comment il s'appelle? C'est Shinoui, lui, c'est Yair Lapid.
Oui.
Yair Lapid aussi. Ouais. Yair Lapid, il a un ami beaucoup contre les religions.
Ah, c'est un salaud.
D'accord.
Ça n'a rien à voir.
Attendez, non, ça n'a rien à voir. Peut-être ça n'a rien à voir, mais il en a mis beaucoup contre les religions.
Ministre des Finances.
D'accord. Il en a mis beaucoup contre les religions. Attendez, écoutez cette histoire.
Il est moins dur que.
Il y a eu.
Que je l'ai mis de.
Quand il y a eu. D'accord.
Il y avait eu
un scandale, d'accord. À propos de, donc il y avait une, vous avez entendu parler en Israël dernièrement, il y avait une jeune fille juive qui voulait se marier avec un arabe.
Mm-hmm.
Et ses parents se sont opposés. Ça s'est passé, ça fait quelques mois.
Ils se sont mariés.
D'accord. Ils se sont mariés, bien sûr, ils se sont mariés. Les parents se sont opposés, ils ont essayé de faire appel en justice, etc. D'accord. Concrètement, évidemment, en justice, elle a gagné la fille et elle s'est mariée. D'accord. Alors, donc, ça avait fait un tollé parce qu'il y avait des manifestations, Pendant la guerre, c'est passé. D'accord. Ouais. C'était une fille de Yafo, une fille juive, d'accord. Moi, Kadosh Baruch Hu, de toute façon, elle finira par regretter, c'est sûr. Alors, parce que c'est impossible de vivre heureux avec un gars, c'est pas possible. Alors, donc, en tout cas, cette fille-là, d'accord, quand il y avait ce tollé, on a interviewé Yair Lapid à la radio. Parce qu'Yair Lapid, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est pas n'importe qui.
Non, des finances, pardon.
D'accord. On l'a interviewé.
Non, mais parce qu'il était pour la laïcité.
Alors, écoutez bien, on lui a posé la question. D'accord. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, moi je voudrais que mes enfants se marient avec des juifs. C'est fort ce qu'il a répondu. C'est-à-dire, venant d'une personne comme lui, qui répond comme ça, qui prenne. Je veux dire, il aurait pu dire, bon, je mélange pas ma vie personnelle, etc. Il aurait pu répondre comme ça. Répondre, d'ailleurs, il y a plein de rabbins qui l'ont félicité parce qu'il faut avoir du cran, d'accord. Il a répondu publiquement, il a dit que pour moi, l'identité juive est importante, il faut se marier avec un juif. Pour moi, vous voyez, ça pour moi, d'accord. Elle a supprimé beaucoup. Non, attendez, il y a beaucoup de choses. Et il faut oublier aussi son père. Bon, à la vache à l'homme, son père est déjà dans le monde de la vérité. Mais, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Moi, je pense, en tout cas, moi, ça fait quelques mois. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques mois. Comment j'analyse cette histoire? Ce que je pense, c'est que, aussi éloigné de la Torah qu'il était, je pense qu'il y a un moment dans lequel il y a eu un instant de vérité. Cet instant de vérité, c'est quand il a vu qu'on arrive à une situation. Qu'il y a des juifs qui commencent à se marier avec des non-juifs, il a eu un instant de vérité qui l'a fait dire publiquement et ouvertement. Alors après, il a dû nuancer ça après parce qu'il a eu d'accord. Mais il l'a dit ce qu'il a dit. Et vous inquiétez pas que c'est un journaliste. Les journalistes, ils savent dire ce qu'ils pensent. D'accord? C'est un ancien journaliste. Il a dit, il a eu un instant de vérité dans lequel son instant de vérité lui dit, un juif se marie avec une juive. C'est tout. Peu importe s'il est kippour ou pas kippour. Ça veut dire que c'est ça kippour. Kippour, c'est la vérité. Qui pour ce moment où on nettoie, on arrive à une vérité, une vérité intérieure. Donc on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider. D'abord, numéro 1, d'arriver, d'accord, à arriver à notre vérité intérieure, ce qui est déjà pas facile. Numéro 1. Et numéro 2, d'essayer de faire en sorte que cette vérité intérieure dure le plus longtemps possible après qu'il faut. Voilà, c'est un tel projet.
Tu sais que j'entends juste sur Yair Lapid, je sais pas ce que ça vaut, parce que moi, j'ai pas accès aux médias israéliens. C'est que, après l'assassinat, je crois, des trois jeunes, il aurait été voir la famille, voir la famille Frankel.
Oui, c'est vrai, oui, je l'ai vu.
Il a dit, je vais prendre un avis de TI, mais je prie pour.
Exactement, vous avez entendu l'histoire?
Ça aussi. L'année, il a fait
des ça, je l'ai pas entendu, je l'ai vu, ça. Ça a été filmé, je l'ai vu, d'accord? Yair Lapid. Le même Yair Lapid, d'accord. Quand il y avait l'histoire avec les trois jeunes
adolescents, oui.
Avant qu'on ait
les assassine, oui.
Avant qu'on ait découvert qu'ils étaient, d'accord. Pendant ces fameuses deux semaines de Tefila, il était donc il y avait des grands moments de Tefila, il y avait des Tefila qui étaient organisés partout dans le hôtel, etc. Et Yair Lapid était venu voir les parents, je crois, de la famille Frankel, si mes souvenirs sont bons, et il leur avait dit, d'accord. Il leur avait dit, j'ai ouvert un livre de Tehilim, ou en tout cas un livre de prière, et j'ai prié pour vous. Maintenant, pour qu'Yair Lapid dit ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On n'a pas idée à quel point c'est quelque chose d'énorme.
Non, mais
pourquoi, Rabotai? Parce qu'il y a eu un instant de vérité. Quand dans le Ham Israël, on a senti qu'il y avait trois enfants comme ça qui étaient qu'on n'arrivait pas à retrouver, il y a eu un instant d'éveil dans le Ham Israël.
C'est la
Neshama qui s'est réveillée, qui était là, qui a toujours été là. Il y a plein de moments dans la vie comme ça. Il ne faut jamais négliger ce moment-là. C'est des moments de grande proximité avec Akadosh Baruch Hu.
Parce que c'est l'identité juive qui parle.
Bien sûr.
Parce que moi, j'ai connu des gens, et je ne veux pas parler de moi, je. Moi, j'ai connu très très bien Henri Krasuki. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu ici.
Oui. C'était un juif.
C'était athée. Je peux vous amener des photos avec lui.
Un copain de Rav Sifrut.
Krasuki. Henri Krasuki.
Attends, il était athée. Il n'était pas croyant et tout.
Non.
Quand il allait sur la tente de ses parents, il faisait le kaddish.
Bon, ça, c'est...
Évidemment.
Mais il ne mettait pas de kippa.
Oui.
Alors j'ai dit, mais attends, mais une kippa, mais un chapeau. Oh, c'est des conneries ton truc.
Mais il fait le kaddish.
Non, mais il met un chapeau quand même. Ouais. Et il faisait le... Moi, je ne saurais pas le faire comme
lui. Ouais, mais et quand pourquoi il parlait, il bafouillait lamentablement. Hein.
Ah ouais.
Bon, allez, on s'arrête là pour aujourd'hui.
Mais voilà, pourquoi
Rabotai, je voudrais terminer juste avec... Bon, on a dépassé un peu aujourd'hui, ça a l'œil de Kippour.
Avec chacun...
Rabotai, juste un dernier point. Une fois, il y a une personne qui est venue voir le rabbi, pour prendre le dollar, le dollar du dimanche, et il a dit au rabbi, je m'occupe de Kirouv Rechokim. C'est-à-dire de ramener les gens à la Torah. Il emploie le terme Kirouv Rechokim, ça veut dire rapprocher les juifs qui sont loin. Le rabbi lui a dit, il n'existe pas de juif qui est loin de Dieu. On ne fait que le ramener à la personne qu'il a toujours été. Ça, il lui a répondu. Il a dit, il n'y a pas de juif loin d'Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas un juif loin d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a un juif qui ne se comporte pas comme un juif. Nous, notre rôle, c'est de l'aider à se comporter comme un juif de se comporter. Mais c'est une approche complètement différente de ce qu'on pourrait entendre. Allez, bon qui pourra tout.
Il était avec ça, c'est tout.
Évidemment.
Il avait les idées les plus philosophiques.
Ça m'arrive de l'autre côté.
Au final, il est devenu religieux.